Salut les joueuses et salut les joueurs, nous sommes le 9 mai 2016 et vous écoutez le 77e épisode de Proxy Jeux. Et nous allons vous parler de jeux de société. Je suis Olivier DPJ et pour nous accompagner, je suis ce soir avec Florent Mortier. Bonsoir Florent.
Salut Olivier.
Je suis également avec Didier Nolin. Je vais le recommencer, Didier Lenin.
Salut Olivier.
Merci Didier. Bonsoir. Et puis avec Stéphane Surgé.
Salut.
On va commencer par une brève présentation. Florent.
Donc moi, donc Florent, oui. Donc ça fait à peu près, on va dire, un peu moins de 3 ans que je suis sur le secteur lyonnais, en reconversion professionnelle bien avancée, puisque je suis arrivé sur Lyon...
De Lille.
De Marseille, oui, de la région marseillaise, du sud, du vrai sud, quoi. Non. Et donc en reconversion professionnelle après un peu moins d'une vingtaine d'années dans la métallurgie. Donc je suis arrivé sur Lyon où j'ai passé une formation diplômante de ludothécaire, FM2J, justement. Sur
à Confluence.
À Confluence, tout à fait, au feu Ludopole. Mmh. Après quoi, j'ai créé l'association Ambiance et Jeux. Donc une association, on rentrera plus en détail peut-être dessus.
Tout à
après.
Fait.
J'ai rejoint aussi la CAL en tant qu'auteur de jeu. Donc j'ai un jeu qui est en cours d'édition à l'heure actuelle depuis 2 ans bientôt chez Sit Down. Et donc je suis, suite aussi à ma formation de ludothécaire, j'ai créé une ludothèque à la MJC Mon Chat dans le 3e sur Lyon. Et aussi, à l'heure actuelle, je suis sur une structure, en fait, le développement d'une structure professionnelle d'animation qui s'appelle Elude, avec plein de projets autour de cette structure.
Très bien. Bah, écoute, tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure.
Volontiers.
Didier.
Donc, bonsoir.
Qui es-tu, Didier ?
Donc, Didier, j'ai 33 ans, 2 enfants.
Donc,
moi, je suis arrivé.
Ou...
Marié, tout à fait.
Bien, marié.
Je suis arrivé sur le secteur lyonnais il y a un peu plus longtemps, en 2003. Donc, moi, je viens de la région parisienne. J'ai rencontré mon collègue Florent sur Octogone en 2014, j'ai envie de dire, vu que je présentais mon premier prototype de jeu avec ma femme. Et donc du coup j'ai rencontré Florent et qui avait créé un mois avant Ambiance et Jeux, et de là j'ai commencé à collaborer avec Florent sur tout ce qui tournait autour du jeu. Et donc on a créé Elude, une structure professionnelle dont parlait Florent. Il y a de ça une petite année. On met plein de choses en place sur le secteur lyonnais.
Très bien. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir. Donc moi, Stéphane, à la base, je suis arrivé dans la région lyonnaise pour rejoindre une école qui avait ouvert en 2007. Mmh. Une école de jeux vidéo donc, qui s'appelait Gamagora. Donc, j'ai participé à la première année là-bas. Alors, on a un peu essuyé les plâtres parce que c'était la première année. Mais ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Et en sortie, de me lancer dans un projet de création de société. Donc, je n'ai pas pu le faire tout de suite pour pas mal de raisons. Mais j'ai travaillé à droite à gauche, surtout chez un éditeur de logiciels. Et finalement, il y a 2 ans, j'ai pu créer la société donc, qui s'appelle Grand Caudron, qui est une société de studio indépendant donc, de développement de jeux vidéo, avec la vocation de faire du cross-média et du transmédia dans le jeu de société.
D'accord.
En particulier. Et donc j'ai pu rejoindre d'autres personnes que j'avais rencontrées à Gamagora donc, dans cette école. Et on a pu monter une fine équipe et travailler donc, sur des adaptations de licences et des projets parallèles jeux de société et jeux vidéo.
Dont une licence très connue.
Voilà, donc une licence de Games Workshop, donc Battlefield Gothic, sur laquelle on réalise donc une adaptation fidèle des règles en jeu de société, donc avec les lancers de dés, les tableaux bien compliqués et tout ça.
Bah, tu nous en parleras tout à l'heure.
Tout à fait.
Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg, c'est surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos Patreons de soutenir ce podcast. Excusez-moi, j'y vais. Je prends mon souffle. Merci à Hervé Mignot, Gaëtan Perrin, Cyril, Guillaume Marche, Franck, Benjamin, Jean, Peggy Chasney, Geoffroy, Siol, Boub, Loïc Lacombe, Olivier Darchy, Mister Nel, Bab, Ludy Boquet, Vincent Vido, Le Durny, Deckmoon, Flavien Mauboucher, Lacariatre, Yann Menez, Alex P, Crisque, Baptiste, Monsieur Tino, Arnaud de Moyenne-Winkel, Johan Bonneau, Guillaume Aubert, un Toulousain, Julie, Jérôme Caveau et Altaripa. Et merci à Altaripa pour son don PayPal. Alors je vous rappelle un petit Patreon pour nous aider avec pour faire vivre un petit peu le podcast, les serveurs, le matériel, les micros, etc., etc. Donc merci beaucoup à vous tous, toutes et toutes. Merci. Alors est-ce que j'ai encore des gens à remercier? Non, une tombola. Alors pour vous remercier, on a commencé à faire gagner des jeux. Et le vainqueur de la tombola, alors il faut pas pour participer, c'est très simple, il faut juste être Patreon. Et c'est Olivier Darchy qui gagne un exemplaire de Sous le Masque et gracieusement offert par Guillaume Montiage, comme annoncé dans le numéro 76. Voilà. Dernière chose, si vous ne mettez pas des étoiles sur iTunes, ils vont tuer le chat. Mais Non! J'espère que vous courez à aller mettre des étoiles sur iTunes. Non, c'est bien nous mettre des étoiles, c'est bien nous faire connaître, c'est bien. Donc, allez-y. Voilà, c'était une courte introduction et on va tout de suite passer à l'actu. Alors, l'actualité. On va pas coller à l'actualité. Je vous ai briefé quand vous êtes arrivés. Nous, on a essayé fut un temps de faire vraiment de l'actu comme peut faire Ludovox, mais ils font ça beaucoup mieux que nous. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'actu, puis vous allez réagir. Je vais vous demander de participer. Et puis n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire. On parlera tout à l'heure, enfin assez vite, des rencontres ludiques de Lyon. N'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Le festival des jeux de Toulouse a eu lieu, je crois, le 29 et 30 et 1er avril. Le 1er mai, pardon. 29 avril, 30 avril et 1er mai. Et c'était la 14e édition. Et pour moi, le festival des jeux de Toulouse, c'est... oui, il faut que tu parles dans ton micro. Ouais.
Il me semble que c'était la 15e, non?
C'est
la
15e
édition.
C'est ça. Tu vois?
Ouais.
C'est
en
ça.
Bouffelant.
J'ai vu les affiches.
Je me rappelle, c'était mon premier passage là-bas, donc...
Et moi, ce qui m'a choqué, enfin ce qui m'a choqué, mais ce que j'ai retenu entre autres, alors pour moi c'est un exemple avec énormément de bénévoles, avec des gens qui signent en langue des signes, avec beaucoup, enfin c'est un des plus vieux salons de France, je pense. Et par contre, il y a eu une inflation au niveau de la salle qui a presque doublé, je crois, entre il y a 2 ans et maintenant.
Qui a doublé même.
C'est ça. Ouais. Et de fait, ils avaient des petits pots sur les tables de jeu pour mettre à contribution les joueurs pour ce festival. Donc moi, c'est un petit peu un truc marquant, c'est que en fait c'est un peu une ça me fait bizarre de me dire que il y a cette inflation là et que c'est compliqué de plus en plus de pouvoir faire ce genre de choses. Mais d'un autre côté, on avait Ludinor en mars, on avait Montpellier en avril, donc le festival c'était la 7e année, festival de Montpellier, le 16 et 17. On va avoir le Paris Ludique en juin, si je ne m'abuse, Octogone en septembre, et puis vous qui arrivez avec les rencontres ludiques de Lyon.
C'est ça, oui.
Alors, comment ça se passe quand on veut organiser une rencontre ludique? Comment ça se passe quand on veut organiser un festival sur Lyon? Qu'est-ce que c'est et quelles difficultés vous avez rencontrées?
Ben, déjà, il faut être motivé, il faut avoir envie, parce que déjà, si on n'a pas la motivation, la passion de ce qu'on fait, et puis vouloir mener des projets, voilà, d'être capable même de mener ce type de projet-là, déjà, si on n'a pas ça, il faut pas le faire. Puis déjà, il faut être bien entouré. C'est-à-dire que c'est pas des projets qui se mènent tout seuls. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir des gens à côté sur lesquels on peut compter. Voilà, je pourrais citer quelques noms parmi les gens qui m'entourent, entre autres Didier, Fanny, Aurélie, etc. Enfin, voilà, pour ne citer que.
C'est Fanny Roux?
Tout à fait. Ah. Elle est partout. Voilà, mais c'est clairement, y a un besoin, de toute façon, déjà au niveau de, sur le secteur lyonnais, d'un festival qui soit plus familial, sans forcément faire concurrence à des conventions comme Octogone. Oui, parce que c'est pas l'objectif.
Alors,
en fait, le but, c'est que ce soit quand même relativement complémentaire.
Dis-nous d'abord quand est-ce que ça se passe.
Alors, ça se passe le 11 et 12 juin 2016, donc cette année.
Et où est-ce que ça se passe?
Ça se passe à l'heure actuelle à la MJC Montchat. Voilà, en fait, on a évolué, je vais dire, en termes de superficie, parce que, en fait, pour faire un petit, petit récapitulatif de l'origine des rencontres ludiques. Donc, c'est un événement qui a été créé il y a 2 ans. Donc, la première édition des rencontres ludiques, c'était un événement qui avait été mis en place par l'association Amarange, dont faisait partie Pascal Rolly. Donc un des auteurs de la CAL. Donc cette association-là avait lancé une première édition où elle faisait venir essentiellement des auteurs de jeux. Donc il y avait la CAL qui avait participé. Ça, c'était vraiment un événement où c'était essentiellement tout ce qui est auteur de jeux de la région, enfin voilà, tout un réseau d'auteurs. Sur le week-end, il y avait eu à peu près en fréquentation à peu près 150 personnes, sachant que ça se déroulait à la Maison des Passages dans le Vieux-Lyon, et il y avait en superficie un peu moins de 250 mètres carrés.
Je crois qu'on y a été l'année dernière.
Voilà. Et en fait, justement, l'événement a été renouvelé l'année dernière, c'est-à-dire que Amarange a demandé notre soutien pour développer plus ce festival, quoi. Ils voulaient le faire grossir. Et donc, ça nous a permis, avec la petite équipe d'ambiance et jeux qu'on était, de diversifier un peu toutes les activités, de faire du jeu de rôle, du jeu de société, du cosplay, du rétro gaming, etc. De faire un espace aussi même pour les familles, pour les enfants et tout ça. Ça s'est très bien passé, si ce n'est que, en fait, en termes de superficie, on n'était pas loin des 800 personnes sur le week-end, et que pour des raisons de sécurité, sur 250 mètres carrés, vu que c'était au même endroit, donc toujours à la Maison des Passages, ça a été très compliqué. Et puis l'espace n'était pas adapté aussi pour l'accueil des handicapés, et on s'est retrouvé confronté au problème. On a une personne pour qui il a fallu qu'on réaménage une salle en contrebas pour qu'elle puisse jouer et profiter avec d'autres personnes.
Oui, parce qu'il faut grimper un certain nombre de marches pour aller dans le local que vous occupez.
Oui, mais c'est vraiment de la vieille bâtisse, quoi. Ouais. Donc, au final, c'est vrai que finalement, on a eu des retours très positifs sur les rencontres ludiques, donc sur la seconde édition. Pas mal de réactions autour de ça, une demande de différents publics, que ce soit des familles, des joueurs, etc. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que l'association Amarange a disparu. Voilà, elle a cessé d'exister, quoi, forcément. Et on a fait le choix, nous, au niveau d'ambiance et jeux, de continuer à porter ce festival, parce que le côté rencontre ludique, le côté familial, etc. On a dit, on va continuer à porter ça, on va relever le défi. Et on a dit, c'est parti. Et il a fallu qu'on cherche des locaux plus adaptés, plus grands, etc. Et donc là, clairement, on est parti sur une troisième édition qui fait que, avec le partenariat qu'on fait au niveau de la MJC Montchat, en fait, là où je bosse, entre autres, justement. En fait, on passe à une surface d'à peu près 1200 mètres carrés, ce qui fait quand même une différence. Ouais. Et on passe de moins de 250 mètres carrés à 1200 mètres carrés. Et c'est même déjà frustrant parce qu'il y a tellement de réactions du milieu du jeu, même des éditeurs et tout ça, d'auteurs qui veulent être présents, que on est obligé déjà de refuser des tables, même de limiter les tables, et on vise plus grand déjà l'année prochaine, quoi. Voilà.
Ça, c'est un problème que tout le monde a, parce que là, Octogone est passé de la salle qui s'appelle
Tête d'Or,
l'espace Tête d'Or, au double mixte, donc pour un lieu qui est un peu moins sympa et quand même beaucoup plus vaste. Et vous avez le même problème avec votre déjà une superficie qui est déjà assez convenable. C'est un salon qui est gratuit, l'entrée est gratuite.
Alors gratuit non, mais on va dire presque, puisqu'en fait on fait au niveau du tarif d'entrée, c'est un coût de 1 euro en passe week-end, quoi, pour le week-end. Voilà, ouais, 1 euro
symbolique.
Par personne.
Ouais.
Voilà.
D'accord, parfait. Rappelle-nous les dates, s'il te plaît.
11 et 12 juin.
Et donc, on y trouvera du jeu de rôle, du jeu de société, du cosplay.
Alors, oui, jeu de rôle, jeu de société, cosplay, jeu de construction, un espace pour les enfants, enfin, type ludothèque avec différents types de jeux. Donc, du jeu de construction, je crois que j'ai dit, conférence, cosplay, rappelle-moi.
Escape room,
oui, tout à fait. Ça devient l'incontournable des festivals, d'ailleurs.
Donc, c'est Team Break qui viendra faire un escape room.
Et si je dis pas de bêtises, Grand Caudron aura une table aussi. Hein.
Tout à fait,
que c'est
les
figurines seront là.
Tu parles de conférences. Est-ce que tu peux nous dire de quoi vous avez parlé?
Alors, on travaille encore là-dessus à l'heure actuelle sur les différents sujets, mais il y aurait une conférence sur le cosplay, une normalement sur tout ce qui est, si tout va bien, rétro gaming et game design. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est trouver les personnes qui pourront mener ces sujets, enfin les intervenants et tout ça. Sur le jeu de rôle. Donc on aura aussi la présence du GROG, voilà, le guide du rôliste galactique, mm-hmm. pour ceux qui connaissent. Voilà, sur le jeu de société, alors là, bah, j'essaie de voir avec la cale, j'essaie de les booster un peu pour qu'ils soient présents. Voilà, là, je leur mets la pression, les gars, faut être là.
Il n'y a pas de raison. Hein.
C'est ça. Donc, voilà, sur un peu tous les thèmes rattachés au monde ludique en général, quoi. Le jeu sous toutes ses formes, quoi.
Alors, vous allez entendre un petit peu des craquements. On mange pas des chips, on mange de la salade. Et je m'excuse d'avance. Des bruits parasites que vous pourrez entendre. Pourquoi je vais poser une question qui est un peu une question polémique, enfin qui est un peu naïve, mais c'est juste pour échanger. Pourquoi un deuxième salon à Lyon alors qu'il y a déjà Octogone, qui a déjà en partie répondu, mais
Oh bah c'est pourquoi bah déjà pour le plaisir, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est même pas une question de faire concurrence à Octogone qui reste une convention qui est déjà plus gamer, plus gros joueur. Voilà, c'est rester sur un truc qui reste très familial, très accessible. Voilà, enfin je pense que c'est quand même différent, et vu qu'il y en a un qui a lieu en début d'année, l'autre en fin d'année, bah il se marche pas forcément dessus. Et puis bon, bah il n'y a pas de compétition, je pense, à l'heure actuelle, puisque de toute façon, en plus, ces événements sont gérés aussi par des associations qui sont regroupées sous la bannière de la FAGIRA. C'est, rappelle-moi, Fédération des acteurs du jeu Rhône-Alpes, enfin quelque chose comme ça. Enfin, bon, grosso modo, et dont justement tous ceux qui participent à l'organisation d'Octogone font partie. Et donc, ben, le but est de porter tous ces événements et de les développer, de les soutenir et tout ça, quoi, par le biais de cette FAGIRA, quoi.
Ouais, c'est juste un événement de plus à Lyon, et ça, c'est très bien.
Ouais, et puis clairement, le public qui sera présent aux rencontres ludiques sont pas forcément le public qui sera présent à Octogone. Il y aura beaucoup de gens du quartier de Montchat déjà, et ça sera très familial, donc vraiment. Bien que Octogone, déjà l'année dernière, a vraiment ouvert ses portes à la famille, il y avait Capla qui était là, une ludothèque, Croque en jeu.
Oui, c'est ça. Oui, l'année dernière, en fait, on était sur l'organisation du pôle famille de la FAGIRA. En fait, le but, c'était vraiment de toucher du public. Et on avait fait, oui, venir Capla. Il y avait une ludothèque qui était présente, donc Croque au jeu, qui est dans les pentes de la Croix-Rousse, place Satonnet. C'est en fait une ludothèque.
Ouais.
Voilà. Après, on avait fait des espaces jeux surdimensionnés, des jeux pour enfants, tout ce qui est ABBA, Djeko et ça. Et ça, il y a eu vraiment de très bons retours aussi par rapport à ça, quoi. C'est vraiment un besoin qu'il y avait. Il y a même eu des papas à un moment qui étaient contents. En fait, tu pourras peut-être le dire. C'est toi qui m'avais parlé de ça.
Didier.
Oui, bah où les papas étaient quand même contents. C'était plus juste leur week-end à eux. Ils avaient quand même l'alibi d'avoir la maman qui était là, enfin leur femme qui était là avec les enfants qui pouvaient jouer pendant que papa profitait de. Enfin, c'est peut-être très stéréotypé ce que je dis, mais c'est clairement, je l'ai ressenti. Voilà, on peut jouer à nos gros jeux pendant que mes enfants sont en train de jouer au Capla, ludothèque, etc. Et, voilà,
sans trop culpabiliser, quoi.
C'est ça.
Et vous, à titre personnel, vous faites des salons, Stéphane, peut-être?
Oui.
Lesquels?
Cette année, on a fait.
Alors, attends. À titre personnel ou à titre professionnel? Parce que là, il y a.
À titre professionnel.
Ouais.
On a fait le Fumble Fest, qui était la première édition.
Le quoi?
Le Fumble Fest, organisé par G2L2, dans les locaux d'une école. J'ai oublié le nom.
À Supinfo.
À Supinfo. Mmh. Voilà, merci. C'est leur première édition, donc c'était sympa. On a fait la Japan Touch aussi, donc à Eurexpo Lyon. Et prochainement, on va faire le Warhammer Fest ce week-end à Coventry. Et ensuite, on va enchaîner du coup avec les rencontres ludiques et aussi début juin à Saint-Etienne.
Voilà. D'accord, Coventry, ça doit être vraiment sympa.
Ça va être sympa.
Et par contre, la Japan Touch, est-ce que tu te retrouves pas un peu en décalage par rapport parce que la moyenne d'âge, ça doit être 14 ans.
La moyenne d'âge est assez basse, ouais. Alors, il y avait un pôle jeu indé.
Ouais.
Donc on était pas trop mal placé, on était avec d'autres développeurs de jeux, donc c'était assez cool. Après la moyenne d'âge est assez basse, mais les jeux Game Workshop, ça cible aussi les jeunes.
Mm-hmm.
Du coup, il y avait quand même pas mal de monde qui connaissait, donc c'était intéressant. Ça changeait des festivals de jeux de société où la moyenne d'âge est plus élevée. Ça permettait d'avoir aussi un retour différent. Et sinon, bah, à titre personnel, oui, je fais tout ce qui est octogone et compagnie. Ça, on me verra à chaque fois là-bas.
Florent ?
Ben moi, on va dire qu'au niveau des festivals, il y a vraiment, comment dire, j'ai eu ma première découverte de festival, ça a été essentiellement Cannes, il y a peut-être 4 ou 5 ans, dans une association de laquelle je faisais partie sur le secteur Marseille. Après, au niveau des festivals, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va plus souvent sur des festivals en tourisme professionnel, comme on dit, pour rencontrer les gens, discuter, faire du réseau, mettre des projets en place et tout ça. Et il y a que maintenant, en fait, je veux dire, le seul vrai festival duquel on a profité à l'heure actuelle, je crois que c'est Toulouse, en fait, hein, où on allait vraiment plus à la cool.
Un petit débrief sur Toulouse, Didier, peut-être.
Bah Toulouse en fait on y allait parce que tout le monde nous en a dit énormément de bien. Mmh. Et donc on s'est dit bah c'était peut-être l'occasion d'aller voir un peu bah à quoi ressemblait Toulouse. Donc comme dit Florent, c'est vrai qu'on a l'habitude, enfin tu poses la question est-ce qu'on y va personnellement ou professionnellement.
C'est quand
nous avec les activités qu'on met en place, même quand on y va personnellement, ça reste quand même voilà du professionnel malgré tout. Parce que bah, le jeu, c'est notre actualité, c'est ce pourquoi on mène des choses. Mais donc du coup, c'est vrai que Toulouse, on a fait l'aller-retour. On avait comme tous les vendredis une soirée ambiance et jeu. Donc on est parti le samedi matin de Lyon pour Toulouse et on a découvert très fatigué effectivement. Et on a, enfin moi, j'étais vraiment surpris déjà d'un festival atypique. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être dans un énorme hall. Enfin, il y a deux halls, mais on a l'impression d'être un énorme hall de jeu. Où il n'y a pas forcément d'identité de tel ou tel éditeur, on a vraiment l'impression qu'on est dans un hall de joueurs et tout le monde joue, peu importe, on ne voit pas forcément est-ce que c'est un éditeur, est-ce que c'est des protos, est-ce que voilà, et donc c'est vraiment super pour ça. Des bénévoles comme tu disais tout à l'heure de partout quoi. Enfin, oui. C'est vraiment impressionnant quoi. C'est vraiment fou. Et donc du coup, je m'attendais vraiment pas à ça, et c'était clairement une très belle surprise de ce côté-là. Voilà, je sais pas si.
Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait pas ce côté très commercial, c'est-à-dire chaque éditeur qui mettait bien en avant ses bannières, qui portait ses couleurs et tout ça. C'était vraiment c'était priorité au jeu, ça faisait presque comme un gros club de jeu avec plein de tables à disposition et tout ça, et pas ce côté commercial tout simplement comme on peut voir sur la majeure partie des festivals, conventions, etc. quoi. C'était assez surprenant.
À faire donc. Je disais tout à l'heure quand la la passion devient un travail, c'est un peu plus un peu différent.
Ouais, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à autant de jeux en si peu de temps sur un festival quoi.
Une autre news qui n'en est pas vraiment une, mais un deuxième pack de missions, un World of Yo 2 est en préparation. Est-ce que vous y avez joué? À World of You. Alors, Florent, il faut que je... Parce qu'on est quand même à la radio. Florent ouvre des grands yeux. Quoi ?
Je fronce les sourcils. World, ça se voit avec les sourcils que
World
j'ai.
World of You.
World of You. Ah, Yo.
Yo-ho.
Oui,
yo-ho.
Ah oui, non, maintenant je comprends. Oui, des éditions de volumiques.
Yo. Tout à fait.
Okay. Florent parle un anglais du sud.
C'est ça.
Donc, World of You.
C'est compliqué. Ça, c'est un yo-yo. Là, je comprends mieux. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais en fait, c'est vrai que ça a l'air très sympathique. Quoi. Ouais,
Didier, peut-être ? Alors, attends, Stéphane ?
Ah non, désolé.
Pourtant, là, c'est du cross-média aussi, le Volumic, Didier, pardon.
Oui, bah, j'y ai joué et puis je l'ai à la maison même, donc voilà, je peux bien en parler. Moi, j'étais un petit peu sceptique au début, j'étais très agréablement surpris de ça. Parce qu'au final, c'est super accessible et c'est vraiment cool. C'est vraiment, alors après, bon voilà, faut avoir le Wi-Fi, faut avoir un smartphone, ça c'est sûr. C'est le gros point négatif, dirons-nous. Mais sinon, vraiment une très belle expérience de jeu. Clairement, quand on a envie de rejouer dès qu'on a fini la partie, je pense que voilà, ça veut tout dire sur un jeu. Donc j'ai joué avec plein de publics différents, des joueurs, des non-joueurs, et voilà. Pour nous, ça a été assez clair. En tout cas, pour cette amorce de ce type de jeu, c'est Volumi qui a fait le boulot.
Donc, excuse-moi, Stéphane, tu connais ?
Non.
Donc, non, World of Yo, c'est les éditions Volumi qui ont édité ce jeu. Si vous ne connaissez pas les éditions Volumi, allez sur leur site. Ils sont incroyables de créativité. On a enregistré un épisode avec Étienne Mineur qui est venu présenter son jeu, qui consiste en fait à émuler en fait toute la partie narrative et action grâce à un téléphone. C'est-à-dire qu'il faut avoir autant de téléphones mobiles dans l'absolu que c'est ça, un peu ça le problème du jeu, que de participants à la partie. Et le téléphone est ton navire, tu vas le déplacer sur un plateau.
D'accord.
Et quand il y a des combats, les combats vont se dérouler d'un téléphone à l'autre. Quand tu vas avoir des quêtes, elles seront sur ton téléphone. Quand tu vas avoir un inventaire à gérer, tu vas le gérer sur ton téléphone. Et quand tu vas arriver quelque part, il peut y avoir des choses qui vont se passer. Donc tu vas avoir une petite indication comme quoi il va falloir que tu prennes ton téléphone. Tu vas prendre ton téléphone, voilà, et tu as rencontré une épave. Est-ce que tu la visites, est-ce que tu la visites pas, et ainsi de suite, tu vas avoir des choses qui vont se passer. C'est très intéressant dans le transmédia, justement.
Ouais, complètement,
Et dans l'utilisation du smartphone. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on retrouve beaucoup, parce qu'il faut quand même avoir son téléphone chargé, et en plus il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est que prend son téléphone et en fait on se fait un peu chier.
Bah, si chaque joueur doit avoir son téléphone, ça limite aussi les joueurs.
Alors c'est possible d'y jouer avec un seul téléphone, c'est plus contraignant, mais c'est possible. Voilà.
D'accord.
Il y a un système pour ça. Après, ce qui est bien, c'est que les joueurs, du coup, vu qu'ils ont leur téléphone pour jouer, ne regardent pas leur téléphone en jouant.
Oui, c'est cool. C'est un peu ce qu'on s'était dit.
C'est vraiment cool.
De comment éviter que les gens, dans une partie de jeu société, au final, fassent autre chose en regardant, envoyer des messages ou regarder leur mail et se concentrent un peu sur la partie.
Ouais, mais à partir du moment où on regarde son téléphone pendant un jeu, c'est que le jeu n'est pas forcément au top.
C'est vrai.
Ou alors c'est un peu long. Quoi. Donc il manque quelque chose.
C'est le mal du siècle, le téléphone. Mais oui, c'est quand même très. Je dirais une expérimentation, mais c'est un vrai jeu. D'abord, c'est un vrai jeu, et pour beaucoup de choses qu'on essaye comme ça, et en fin de compte, qui marchent plus ou moins bien parce que c'est du prototype ou des choses comme ça, là, c'est un vrai jeu avec des vraies histoires, et c'est intéressant. Mais par contre, t'as toujours un moment où quelqu'un prend son téléphone et reste 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes à faire son inventaire, tout ça, et puis tu peux rien faire pendant ce temps, quoi.
C'est clair. En revanche, ce qui est pas mal, c'est que c'est qu'on découvre qui est le vainqueur. Ça, c'est super, ce jeu, pour ça. C'est qu'on voit pas l'évolution de chaque joueur. Donc, à un moment, on découvre le vainqueur et on voit mission terminée. Et là, on découvre le vainqueur. Donc, on sait pas comment se placer par rapport à ses camarades. Ça, c'est cool sur la fin.
Alors, ça permet de garder des infos secrètes.
C'est ça. Tu peux le savoir en allant dans les tavernes et en demandant, en passant derrière quelqu'un.
Ouais.
Non. Mais c'est voilà, ça montre qu'il y a quand même des stratégies à voir, et que tu peux faire des choses. C'est un vrai jeu. Une autre news. Alors ça, c'est une news un petit peu propre à Proxy Jeux. Lana et son papa. Si vous avez pas vu ces vidéos de Isobretnik et de sa petite fille Lana, allez-y. On vous mettra les raccourcis dans les notes de l'émission. Il y a Didier qui hoche la tête comme ça. Mais comme on est en train de manger, il peut pas non plus intervenir. Donc Isobretnik, c'est notre intervenant du Japon. Il a une petite fille qui est adorable. Et je crois qu'il est à l'épisode 12 et il lui fait jouer à plein de jeux de son âge. Il doit avoir 5-6 ans, j'ai un petit doute là-dessus. Et puis voilà, Didier.
Oui, non, mais je suis tombé sur une des vidéos, j'en ai vu qu'une, hein, mais j'ai vu le début d'une vidéo, j'ai trouvé ça excellent parce que forcément, moi, la famille, ça me parle.
Ça te parle.
Donc, de voir un papa comme ça avec sa fille. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça vraiment cool.
Vous regardez des fois, vous êtes consommateur de vidéos comme ça?
Bah, pour moi, clairement, en fait, ce type de vidéo, c'est suivant la durée, en fait. Voilà. Si c'est des vidéos qui sont assez courtes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, grand maximum, ça va aller. Après, à partir du moment où c'est plus long, je vais avoir tendance à éviter, quoi.
Ah, 30 minutes, c'est déjà pas mal.
Oui, 30 minutes, c'est déjà pas mal. C'est vraiment un maximum presque pour moi.
Ouais. Stéphane, les vidéos?
Oui, aussi, surtout les présentations type Guerre au garage, où ça rentre bien dans le détail de jeux de figurines. C'est bien ce que je regarde. Ouais.
Donc, toi, Didier, Lana et son papa.
Oui. Fois. Non, mais avant, c'est vrai qu'au début, je regardais énormément de Trick Track TV, par exemple, Ludovox, etc.
Avant ou après qu'ils aient enlevé les jeux derrière eux?
Parce avant, oui, quand il y avait
polémique.
Tous les jeux. Ah, sur la salle, c'est ça,
sur, ouais, sur le, fond
le tout blanc,
ouais.
Le tout blanc. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est pas une question de reconfiguration de TrickTrack ou quoi que ce soit. C'est que depuis ma reconversion professionnelle vraiment dans le monde du jeu, etc. J'ai de plus en plus vraiment plaisir à lire les règles, en fait, vraiment entrer dans le jeu profondément. Donc, je vais aller voir 2-3 vidéos, mais j'en consomme beaucoup moins qu'avant, au final. Parce que je me déplace beaucoup plus sur les festivals. Je vois même les jeux en amont, avant qu'ils sortent, etc., en phase prototypale. J'adore ça. Hein. Je le fais pas assez. Je le fais moins maintenant. Mais j'adore rencontrer les auteurs, connaître l'histoire du jeu avant qu'ils sortent. Au final, ça m'intéresse plus presque le jeu fini, au final. Mais ouais, moins consommateur de vidéos. Moins le temps aussi. Avant, c'est vrai que... Enfin, je bossais beaucoup aussi, pas dans le jeu, mais je regardais, c'était ma détente... vidéo, quoi.
Est-ce que vous écoutez du podcast?
Proxy jeu, par exemple. je les ai pas tous écoutés.
On lui a donné le billet hein, pour qu'il réponde ça.
C'est ça. Merci. Non, mais la radio des jeux, j'en ai vaguement entendu parler via Facebook, mais ouais. Après, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de les écouter, de découvrir ça, quoi. À voir.
C'est donc la troisième édition de la radio des jeux. On a commencé un peu à cause d'eux. Enfin, un peu à cause d'eux. On a commencé à cause d'eux. Il y a fort longtemps, on avait 4 heures d'émission avec des présentations d'acteurs du milieu du jeu. Alors ça pouvait être Mathilde Gigamix, ça pouvait être j'en cherche, mais je vais pas les trouver. Des gens très en vue, ça pouvait être Croc, ça pouvait être Caris, etc., etc. Donc très très bien, très très long, et de la petite enfance jusque à l'aboutissement de la carrière professionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait et où est-ce que vous en êtes? Nous, on a pris un autre chemin. C'était un peu plus, c'était prendre le contre-pied un petit peu de ça, en disant il y a aussi des gens qui sont qu'on connaît pas et qui font des choses comme vous. Il faut leur donner la parole aussi, donc c'était un petit peu ça. Au bout de quelques années, la première radio des jeux s'est arrêtée. Il y a eu une deuxième édition qui n'a pas duré longtemps. Et là, c'est Rexou qui reprend la barre avec Fred Brelo, qui était lui qui faisait partie des animateurs de la première radio des jeux. Donc voilà, donc il faut aller voir parce que c'est Rexou et Fred sont des gens très intéressants et très intelligents, donc c'est bien aussi qu'il y ait beaucoup de diversité dans le podcast. Il y en a pas assez. C'est un peu comme vous avec les événements ludiques, on n'a pas assez de podcasts ludiques à écouter. Je me tourne vers Stéphane. Toi, t'écoutes au moins le Gobelin Rose.
Gobelin Rose, oui. Et Proxy Jeu, j'ai découvert avec le billet sur 99 Monkeys.
D'accord.
Puisqu'ils font aussi du cross-média, et du coup, j'étais tombé dessus en cherchant un peu ce qui se faisait dans le domaine. Mm-hmm. Mais sinon, pas plus. Ouais, Gobelin Rose et Proxy Jeu.
D'accord. Autre news, Conan. Conan est encore repoussé. Bon, après, ça ressemble un petit peu à une arlésienne, tu sais. C'est la news qu'on peut mettre dans tous les drives et puis se reporter.
Ils veulent pas réouvrir le Kickstarter par hasard?
Pourquoi
qu'on rattrape notre retard? Oui.
C'est-à-dire le temps de pledger, il sera peut-être... Ah non, parce que ça sera... Là, c'est prévu pour octobre. T'as pas pledgé alors?
Non, pas du tout. J'ai raté ça.
Alors, c'est pour ça que j'avais deux solutions tout à l'heure, des alternatives, parler de la radio des jeux ou de Conan. Parce qu'en fait, c'est en regardant la TrickTrack TV de Conan que je me suis décidé à pledger. Donc voilà. C'est la petite histoire, je l'ai déjà raconté, donc je vais pas m'étendre. Qu'est-ce que vous pensez du Kickstarter? Rien.
Dans le jeu de société?
Didier, en général, et puis dans le jeu de société en particulier.
Écoute, je pense qu'à un moment, le Kickstarter, ça devient la plateforme participative, hein, tout simplement. Va entrer dans nos vies, est déjà entré, mais pour plein de choses.
La preuve avec...
Ça se limitera au bouquin ou au jeu de société.
La preuve pour nous avec Patreon.
Voilà.
C'est quand même du participatif.
Voilà. Après, en penser quoi sur le jeu de société pur, je pense pas avoir peut-être tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai que quand je vois des je parle pas forcément de Kickstarter hein, ou de toute plateforme Ulule et compagnie, ce qui va m'intéresser c'est quelqu'un qui va réussir à créer voilà son jeu ou ce qu'il voulait créer avec l'aide d'autres gens qui veulent ce produit ou les soutenir. Après sur tous les jeux de société qui se développent, que ça soit des grosses boîtes d'édition qui pourraient éventuellement le faire, après j'ai pas d'avis tranché là-dessus, j'en sais rien si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, moi l'intérêt que je vois c'est clairement je pensais à sur Ulule, moi le premier que j'ai fait c'était sur Ulule pour Léandre Proust qui avait fait Tower Defense, je sais pas si vous voyez de quel jeu je parle, et je trouvais ça super. J'ai pledgé quoi 2€ ou un truc comme ça, enfin on pouvait aller jusqu'à 20€, peut-être même plus, j'en sais rien. Et bah voilà, j'ai trouvé ça super d'aider un auteur à faire voilà à créer son jeu vraiment physiquement et l'avoir. Après sur le reste, sur vraiment les gros Kickstarter, j'ai pas d'avis plus tranché que ça. Après je pense aux boutiques, je pense à plein de choses, je sais pas si ça coupe les boutiques sur leur business, je maîtrise pas assez ça pour en discuter plus longuement, mais je sais pas si vous avez d'autres avis.
Alors moi j'ai une anecdote, c'est que j'ai pledgé pour innominer Satanis Magna Veritas, et quand c'est arrivé en boutique, j'ai pledgé via la boutique par Trollune. Et on m'a dit, en fait, toi, t'as le droit aux deux premières extensions, mais pas la troisième, ou trois premières extensions, pas la quatrième. Et t'auras pas non plus de paravent du maître. T'auras pas le paravent du maître
l'écran,
de jeu,
quoi.
L'écran de maître. Parce que t'es passé par la boutique, et pas par le, par le site. Bon, voilà. Bon, moi j'ai pledgé pour Conan, j'ai pledgé pour le World of Yo-Ho parce que là je trouvais que c'était intéressant, que justement ils ont fait juste ce qu'il fallait pour pouvoir sortir leur jeu. Après voilà quoi. Et puis Conan c'était tellement énorme que je vais redire ce que j'ai dit il y a longtemps, je me suis laissé embringuer les 48 dernières heures, c'était de la folie, donc ils ont fait je sais pas combien.
J'étais à deux doigts aussi mais bon, non, j'ai pas craqué.
Et le pire c'est que un whisky d'abord. le pire, c'est que j'ai rajouté un billet quand ils ont fermé, ils ont rouvert le pledge manager en disant, au fait, ça vous intéresse pas de compléter un peu votre commande? C'est-à-dire, ça fait déjà 2 mois que j'ai donné mes sous, donc je m'en souviens plus. Fais-moi mal encore, tu vois, c'est. Et toi, Florent?
Moi, je trouve que le Kickstarter, c'est vraiment un outil très intéressant pour les gens qui essaient vraiment de développer un projet à fond, qui se donnent les moyens et qui font de manière très professionnelle. Sauf que, après, on voit beaucoup de tout et n'importe quoi, ou des gens qui lancent leur Kickstarter sans être vraiment préparés ou sans avoir un projet qui est vraiment abouti. On en a vu même sur le secteur lyonnais. Et je trouve ça c'est dommage parce que ça donne peut-être une mauvaise réputation à un outil en fait qui peut être très très utile pour beaucoup quoi. Voilà. Après sur les Kickstarter en général, ça m'est arrivé sur quelques petits jeux, justement celui de Léandre, justement Tower Defense, je l'ai fait sur un autre jeu de.
Je te le dis ou pas? Je te laisse réfléchir. 7 minutes to kill.
10 minutes to kill.
Non, t'as pledgé ce jeu-là?
Oui, celui-là, oui.
Dommage.
Il y en avait un autre, celui avec le chat, là, les couleurs et tout ça, là, de Cédric. Là. Oh mince.
Ah, Sam la pagaille?
Sam la pagaille, ouais, tout à fait. Je crois que c'était un des premiers sur lesquels j'ai pledgé. Puis après, il y avait aussi le magazine JDS.
Oui.
Aussi. Tout à fait.
De Vianney.
Ouais, de Vianney, tout à fait. Voilà. Après voilà, il faut vraiment faire le tri sur les différents projets. Alors c'est vrai que des fois on voit sur internet ou sur Facebook des offres super sympas, des visuels top, mais enfin je pense qu'il faut pas pléger pour tout et n'importe quoi. Et après comme disait Didier, après c'est faut voir après ce que ça vient perturber au niveau des boutiques quoi. Voilà, est-ce qu'à un moment ça leur met pas des bâtons dans les roues? Puis après il y a le côté professionnel aussi, tout ce qui est éditeur etc. qui à un moment se servent de ça pour développer leur jeu, pour moins prendre de risques. Bon, après on peut pas les empêcher de se servir de ça comme outil pour lancer leur projet, mais bon. Voilà. Mais je pense que déjà c'est un très bon outil pour les gens qui veulent à un moment se donner les moyens et développer quelque chose quoi.
Ouais, je vais juste expliquer ma réaction sur 10 minutes to kill. En fait, on y a joué à Essen et c'était pas une partie représentative parce que il s'est passé en fait quelque chose qui a fait que très rapidement en fait on savait qui c'était le tueur Et la partie a pas marché, mais je pense que c'est pas très représentatif de toutes les parties.
Ah, mais c'est pas bien pour les gens qui sont intelligents, que le jeu est trop facile.
Non, mais le jeu marche en revanche très bien. Juste, il y a une erreur de jeu, ça peut être compliqué, mais quand les gens maîtrisent bien le jeu, ça tourne vraiment bien. Moi, je regrette pas en tout cas le pledge dessus.
Stéphane, le Kickstarter.
Oui, alors nous on a un avis un peu particulier sur la question, puisqu'on a exploré un peu les possibilités, et on avait d'ailleurs fait venir Jamie, qui s'était occupé du Kickstarter Conan. Mm-hmm. Étant un grand fan de Battlefield Gothic, on l'a fait venir au studio pour qu'il teste et qu'il nous donne son avis. Et en fait, on a pas mal exploré la question, et on a aussi trouvé d'autres études qui faisaient un comparatif de Kickstarter sur les projets entre le jeu de société et le jeu vidéo.
Ouais.
Et c'était très intéressant de voir que le modèle est pas du tout le même, en fait, puisqu'en termes de montant sur un an, on est arrivé à peu près au même montant global, que ce soit pour le jeu de société et le jeu vidéo, mais ça représentait 10 fois moins de backers, en fait, pour le jeu de société, et 20 fois plus de projets qui ont abouti, parce que les gens prennent totalement différemment, en fait, un rendu physique qu'ils peuvent avoir à la fin, avec un jeu vidéo qui demande des ressources souvent beaucoup plus conséquentes qu'un jeu de société, et qui au final est digital à la fin. Et on a aussi eu, pour la petite anecdote, le retour du bâton entre guillemets de Kickstarter au niveau dans le monde un peu de la finance, parce que quand on a cherché des fonds pour monter donc Grand Creudron, on s'est heurté un peu à une réponse assez amusante de la part de certaines banques et même des organismes publics qui nous ont dit ben on vous prêtera rien, vous avez qu'à monter un Kickstarter. Et du coup, je pense que ça va commencer un peu à se ressentir, en fait, sur les petits studios qui ont besoin de fonds pour se créer, à cause du financement participatif, se retrouver avec des financiers qui n'ont pas envie de mettre la main à la pâte avant d'avoir un Kickstarter qui a fonctionné. On a déjà le cas dans certains jeux vidéo où des éditeurs vont dire bah, prenez 1 million sur Kickstarter et nous, on mettra le deuxième, ou des choses comme ça. Et ça commence à être un peu bancal pour les petites structures.
Un peu problématique. Autre news. Encore une extension pour Five Tribes. Les voleurs de Nakwala arrivent en août. Alors moi, j'ai toujours une...
Juin, non. Il me semble.
Comment ça?
Début juin, je dirais.
Comment?
Début juin.
Quoi?
Quoi? Oui.
Ludovox, donc... Ludovox m'a menti.
Au mois dernier, c'était début juin. Après,
bon, bah écoute, je vais regarder. À la pause, j'irai regarder. Five Tribes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais commencer par donner mon avis. Donc, Five Tribes, en fait, j'ai dû faire 2-3 parties. C'est un jeu qui est bien foutu, qu'il faut dire ce qui est, mais j'accroche pas. J'accroche pas forcément dessus, même si la mécanique est sympa. Mais j'ai du mal à lui trouver sa place au niveau des jeux Days of Wonder, que j'ai toujours trouvé comme des jeux quand même assez accessibles, assez familiaux. Et Five Tribes, je suis pas un génie du jeu, donc malgré tout, enfin voilà, je suis pas un gros joueur, même si j'aime jouer. Mais ce jeu-là, j'arrive pas à lui trouver sa place chez Days of Wonder et j'ai du mal à accrocher. J'ai préféré dans le même style, avec le même type de mécanique, du même auteur, comment ça s'appelle, Longhorn. Qui okay. est le même jeu, mais en beaucoup plus petit, à 2 joueurs. Quoi.
Mais un format de joueurs.
Voilà, format de joueurs.
Didier, Five Tribes.
Five Tribes, donc, que j'ai aussi à la maison, forcément.
Pourquoi forcément
bah, déjà, je suis, j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert le jeu, mais j'aime beaucoup Bruno Catala. En tout cas, c'est vraiment les premiers jeux. J'ai découvert un peu le jeu moderne grâce à lui. Et ses jeux, en tout cas. Et du coup, Five Tribes, je pense que moi, j'ai pas. Ce qui m'a peut-être gêné, peut-être j'ai pas joué avec les bonnes personnes ou j'en sais rien, c'est que à un moment, on doit choisir à quelle position on joue. On fait des enchères en fait pour choisir notre place. Oui. Et je vois tellement de possibilités sur le jeu qu'en fait, je m'en sers pas. Et c'est-à-dire que je fais de l'économie. Ça, je préfère jouer en troisième ou quatrième position. Sans avoir payé, parce qu'il faut savoir qu'on paye des pièces en fait pour être mieux placé pour commencer son action avant les autres joueurs. mais tout cet argent qu'on paye, c'est des points de victoire qu'on n'aura pas à la fin de la partie. Mmh. Et alors j'ai peut-être pas fait assez de parties où j'ai voilà pas joué contre des gens qui maîtrisaient vraiment ce jeu, etc. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'avoir à payer ma place pour jouer, parce que le plateau évoluait tellement vite. Enfin, il y avait plein de possibilités à chaque fois. Et du coup, voilà, ça m'a, je pense, m'a enlevé une grande partie du jeu et de l'intérêt du jeu, en fait, au final. Après, le principe de la Wallée, moi, j'adore les jeux traditionnels, donc ça, j'ai trouvé cool de l'adapter dans un jeu de société. Après, j'ai pas un avis négatif du tout sur le jeu. C'est juste, j'ai pas eu vraiment cette sensation d'obligatoirement aller chercher cette première ou deuxième place pour jouer, pour faire le gros coup, peut-être à la fin du jeu, mais pas dans les premières, voire le milieu de la partie.
Stéphane, tu...
Je l'ai pas testé, du coup, j'ai pas d'avis.
D'accord.
Mais c'est vrai que pour en revenir à ce que disait Didier, sur les trois parties que j'ai fait sur ce jeu-là, deux parties que j'ai gagnées en faisant justement le radin, en payant pas mes positions, en étant toujours dernier à jouer, et j'ai réussi à gagner comme ça, quoi.
Oui, parce qu'en fait, on paye en points de victoire.
Oui, tout à fait.
Donc tous les points de victoire que tu n'as pas donné en cours de la partie pour être premier, tu les as conservés. Ouais. Alors, il y avait votre avis sur le jeu, surtout qu'est-ce que vous pensez des extensions ? Ça, c'est la deuxième. Donc il y a après les artisans, il y a les voleurs. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous, en général, vous restez sur le jeu de base ? Ou est-ce que vous êtes plutôt à acheter des extensions et quand vous aimez un jeu, à continuer à acheter des extensions et à l'enrichir de cette façon-là ?
Moi, je vais reprendre le cas de deux jeux sur lesquels j'ai testé les extensions dernièrement. Il y a un jeu qui est assez connu, qu'on va appeler Cash and Gun, où j'ai pu tester les extensions, enfin même la prochaine. Et bon, je pense que c'est pas forcément, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon, c'est pas forcément incontournable. C'est-à-dire que c'est sympa, mais sans plus. Ça donne plus l'impression de dire, tiens, mais on va faire une extension de plus pour faire vivre le jeu, ce qui est de bonne guerre, ceci dit. Là où j'ai été plus surpris, c'est par Colt Express des Ludonotes.
La diligence.
La diligence, ouais, l'extension diligence qui apportait encore une nouvelle dimension au jeu, qui enrichit le jeu, qui apporte vraiment un plus dans les mécaniques du jeu et dans l'immersion même dans le jeu, quoi.
Je la présenterai tout à l'heure, alors, quoi, à la fin de l'émission. Didier, un avis sur les extensions ?
Moi, ça va dépendre du jeu. J'ai commencé vraiment à connaître les jeux modernes, je vais dire, avec les colons de Catan, jeux de cartes. Je sais pas si.
Oula!
Ouais. Ouais, ouais.
C'est en 1900 quelque chose.
Et du coup, il y a pas mal d'extensions dedans. Et au final, ça, j'ai acheté les extensions parce que j'avais vraiment un plaisir de jeu sur ce jeu. Donc c'est vraiment, si un jeu va me plaire vraiment fortement, j'ai l'impression pas forcément d'avoir fait le tour parce que j'y joue beaucoup. S'il y a une extension qui va sortir, là, ça va m'intéresser de voir à quel point. Après, si un jeu m'a plu moyennement ou bien seulement, j'irai sur les extensions peut-être par accident ou si j'ai l'occasion de la tester. Mais si le jeu, dans l'absolu, m'a plu comme ça, ça me va bien, quoi.
Mmh. J'ai toujours un peu du mal. J'aime bien, il y a des jeux que j'aime beaucoup. Pour le coup, Five Tribes, j'aime beaucoup et je vois bien ce que tu lui reproches. Et je suis comme toi, je pense que des fois il faut juste laisser passer. S'il y a vraiment un bon coup à faire, on y va, mais sinon il n'y a pas de raison à y aller. Et j'aime bien des fois ne pas pousser trop loin, ne pas acheter d'extension, ne pas en rajouter, parce que ça c'est à la base un jeu pur, et en fin de compte en rajoutant c'est un peu trop lourd et un peu trop voilà. Bon, donc à voir. De toute façon ça sort à l'été, soit en juin soit en août. Peut-être au milieu, on sait pas, c'est chez des vendeurs. Et puis voilà, puis moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé l'année Catala quand il a fait Abyss, c'était l'année dernière avec Abyss, avec Five Tribes, et c'était une très belle année pour lui. Petit coup de gueule pour finir, est-ce que vous jouez au jeu de rôle ?
Bah oui.
Oui, inévitablement.
Alors, très bien, vous jouez à quoi ? Stéphane.
Je vais commencer. Alors du coup, en ce moment, nous, on est surtout sur Dark Heresy, donc le jeu de rôle Warhammer 40 000.
Encore ?
Forcément. ouais, ça. De toute façon, depuis, on a été éduqué dans notre consumérisme par Game Workshop, donc depuis HeroQuest, on achète un peu tout, et c'est un très bon jeu, donc on n'a pas de raison de s'en priver. Beaucoup, on a sur Donjon 5 aussi. On testait le nouveau système, qui est vraiment bien. Donc Toulouse, un classique. et le nouveau Star Wars aussi.
Quelle époque de Cthulhu?
1920.
C'est bien.
C'est la seule véritable époque.
Ok, donc très, très ludiste, beaucoup de
JDR.
Des fiches de personnel avec plein de caractéristiques et puis une boîte de dés pour résoudre les événements.
C'est ça. Alors, il n'y a pas forcément des brouettes de dés dans le jeu de rôle, mais c'est un peu l'idée.
Ouais. Et toi, Florent?
Ben, moi, en fait, on va dire que j'ai un sang de rôliste par défaut. En fait, ce qui nous différencie un peu, même je dirais avec Didier, c'est que Didier, lui, est vraiment un gros joueur de jeux de société comparé à moi. C'est vraiment le spécialiste, même au niveau d'ambiance et jeu, par rapport à moi, c'est le spécialiste du jeu de société, quoi. Moi, je suis plus, à l'origine, depuis l'âge de 11 ans, forcément, j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros, etc. J'ai fait mes premières parties de jeux de rôle au collège sur du Paranoia. Je sais pas, pour les plus anciens, peut-être qu'ils reconnaîtront. Après, j'ai fait énormément de créations de jeux de société à titre personnel, et donc j'ai fait pas mal d'initiations à des joueurs, que ce soit la famille, des amis, etc. À l'heure actuelle, je recommence à jouer petit à petit à certains jeux de rôle, justement comme Cthulhu, la V7, voilà, la dernière version, et aussi le Star Wars, le dernier Star Wars de Edge, que je trouve très sympathique, très accessible, voilà.
T'as des enfants?
Oui.
Quel âge? Alors, je suis pas de la police, mais... Est-ce que tu joues avec tes enfants?
Alors, 7 ans et 10 ans, donc, et non, je joue pas. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de pas les influencer, pas forcément leur faire manger du jeu tous les jours, etc., etc. Et oui, c'est mon portable qu'on apprend.
C'était la rue, mais...
Voilà. Et donc, c'est peut-être mes enfants qui m'appellent.
Justement. J'avais jamais entendu jusqu'au bout, vu que tu décroches au bout de 2 sonneries.
Et donc, c'est vrai que je les pousse pas forcément à jouer. Peut-être des fois pendant les vacances, j'ai pu leur faire une initiation jeu de rôle sur un vieux jeu de rôle. Non, c'est pas si vieux que ça. Mais
c'était quoi,
c'est Noodle. C'était un jeu d'initiation. C'était 7e cercle qui faisait ça, je crois. Ouais. À l'époque, ça s'appelait Neko Corp ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais c'est vrai que donc ouais, tout ça pour dire que je les pousse pas forcément à jouer, et malgré elle, elle s'intéresse au jeu, elle s'amuse, même la plus petite s'amuse des fois à créer des jeux de société, à dire tiens regarde on essaye, elle invente ses règles au fur et à mesure, et on voit que ça leur plaît parce qu'elles veulent même venir sur des animations pour expliquer des jeux, etc. Voilà. Et encore pas plus tard que ce week-end, j'avais quelques boîtes de jeux qu'on a reçues donc pour le festival, et des jeux pour les enfants en bas âge. Et c'est mes filles qui ont pris les boîtes, qui ont commencé à regarder les règles et tout ça, et à m'expliquer comment ça se jouait, quoi. Donc c'est rigolo, quoi, parce que sans les forcer forcément dans cette direction là d'elles-mêmes elles s'y intéressent et elles ont envie de venir au festival pour animer et tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont fait encore l'année dernière, même sur Octogone, quand il y avait des jeux à bas et tout ça. À un moment, c'est elles-mêmes qui allaient expliquer aux parents, aux enfants, les règles de jeu, quoi. Pourtant elles sont pas vieilles, mais elles maîtrisent déjà.
Ouais,
c'est assez rigolo.
J'ai connu ça aussi. Et toi, Didier, pas de jeu de rôle alors?
Non. Livre dont vous êtes le héros, un peu.
Ça sera pas du jeu de rôle déjà.
Voilà. Mais sinon, non, pas de jeu de rôle.
Et il est infréquentable. Ouais. Tout l'opposé de moi.
Donc tout ça pour dire que j'avais un petit coup de gueule à passer contre la cellule, parce qu'ils ont fait un dernier épisode parlant de l'esprit et la lettre de la règle, et en fait ils veulent parler de plus en plus de jeux de société, mais il faudrait qu'ils invitent des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. C'est un peu méchant ce que je suis en train de dire, en fait.
C'est très méchant.
Ouais. Mais c'est bien, mais j'aimais bien quand ils parlaient uniquement de jeux de rôle et un peu moins quand ils parlent de jeux de société.
J'ai pas compris qui ça.
La cellule, le blog de la cellule.
Romaric
Briand.
Ah d'accord, ouais, je vois qui c'est.
Je l'aime beaucoup, je les aime beaucoup, mais voilà, je me désolidarise. Voilà. Écoutez, on va si vous voulez, on fait une petite pause et puis après on passe à vous. On vous laisse la parole.
Ok. Ok.
Et donc ce soir, nous sommes donc avec Florent Mortier, Didier Lenain et Stéphane Surgé pour deux sujets complètement différents. La cale, j'allais dire printemps du jeu, aide-moi s'il te plaît.
Rencontres ludiques de Lyon.
Les rencontres ludiques de Lyon et Lude et ambiance et jeu. Et puis, Stéphane, toi tu viens nous parler de transmédia, tu viens nous parler de jeux société en jeu vidéo.
C'est ça, tout à fait.
Alors parle bien dans ton micro.
Voilà, je mange dedans.
Et dis-nous, quelle est la genèse de ton projet? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Alors, on l'a un peu compris, tu es un fan de Warhammer.
Des jeux Games Workshop en général. Ouais. Mais c'est pas là-dessus qu'on a commencé la société, en fait. Donc au départ, quand on l'a monté, on s'est lancé dans un jeu, donc, dans notre propre univers. Qui s'appelle Eternal Forest, un univers assez celtique, assez folklorique, avec des gobelins, des elfes, des fées, mais assez particulier, très, très axé sur la nature. Et on a fait un prototype donc, de RPG donc, dans cet univers. Et c'est un monde qu'on veut complètement exploiter aussi en jeu de société, en univers transmédia, avec des ponts entre les deux, des indices dans le jeu de société qui vont aider à découvrir des choses dans le jeu de rôle et vice versa. Et pendant qu'on avançait donc sur ces concepts, on a eu l'opportunité donc de travailler avec Games Workshop, qui s'est fait de manière... Oui, tu allais me...
Vas-y, mais c'est comment on peut avoir l'opportunité sans aller chercher les gens des Games Workshop?
Alors, on les a un peu cherchés, mais ça s'est passé de manière assez inattendue, dans le sens où on ne pensait pas qu'ils allaient être aussi accessibles, surtout pour nous qui étions une petite structure, on commençait juste. Alors même si on avait chacun de notre côté de l'expérience, Grand Cauldron, c'est tout nouveau. Et du coup, on les a contactés un peu par hasard, en fait, pour savoir comment ça marchait, leur système de licence et tout ça. Mm-hmm. Bon, malheureusement, je peux pas rentrer dans le détail, sinon ils vont pas être contents. Mais ça s'est bien passé, c'est des gens qui sont assez ouverts. On s'est rencontrés l'octobre qui a suivi, donc en 2014, à la convention à Paris Game Connection. Et donc, on a vu leur équipe licensing... On a pu discuter un peu avec eux, échanger sur notre projet. On leur a montré un petit prototype en leur disant bien qu'on voulait adapter les règles du jeu, pas faire juste un jeu vidéo dans l'univers de Battlefield Gothic, mais vraiment prendre le jeu de société et en faire une version en jeu vidéo, mais avec un setting un peu différent, une histoire originale.
Je te coupe. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter Battlefield Gothic, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure.
Ouais.
Et en fait, déjà moi, je vois pas à quoi ça correspond.
D'accord. Alors Battlefield Gothic, c'est un jeu qui sont sortis en 98.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un jeu de combat naval avec les vaisseaux spatiaux dans l'univers de Warhammer 40 000.
C'est du Dreadfleet, mais dans la.
Voilà. C'est un peu ça.
Dans l'espace.
C'est un peu ça. Ça reste sur un plan 2D, ouais, avec des armes de flanc, des batteries. Ça fait très Age of Sails, bataille navale, 19e siècle, tout ça. Mais avec des vaisseaux spatiaux. Et donc, c'est un jeu qui, malheureusement, à l'époque, n'était pas sorti en France, en version boîte, qui était sorti dans tous les pays anglo-saxons, et qui ensuite s'est retrouvé sur leur site web dans les jeux spécialistes. Et en 2011 ou 12, quand ils ont arrêté la gamme spécialiste, Battlefield Gothic s'est arrêté aussi. Donc il a eu quand même à peu près entre 12 et 14 ans de vie, je ne me souviens plus exactement les dates. Et c'est un jeu qui a rencontré beaucoup de succès, parce que les règles sont intéressantes, c'est assez bien équilibré, les figurines étaient jolies, et le système de jeu changeait, c'était intéressant, ça faisait très jeu de bataille navale. En fait, à l'époque, il n'y avait que Manowar, mais Battlefield Gothic fait beaucoup plus simulationniste dans ses concepts et dans ses systèmes.
Encore des brouettes de dés.
Voilà, là pour le coup il y a des brouettes de dés, il y avait des tableaux compliqués, il y a deux entrées, trois entrées pour essayer de voir combien la puissance de feu des batteries d'armes faisait, etc. Donc c'était un peu austère et un peu complexe, mais c'est aussi ce qui faisait toute la richesse du gameplay. Et donc nous on est arrivé vers Games Workshop en leur proposant ce jeu qui à l'époque n'avait pas d'adaptation. Donc, il y en a eu une sur PC qui était annoncée à l'époque, on ne savait pas. Et coup de chance, eux ils font un jeu stratégie de temps réel, donc c'est une adaptation libre. Donc ça nous laissait le champ libre pour faire une adaptation du jeu de société. Sachant que comme il n'était plus édité, il n'y avait pas de conflit en fait avec Game Workshop de ce côté-là. Parce que j'imagine que des jeux comme Warhammer ou Warhammer 40 000 qui sont encore en vente, bon bah là, une adaptation fidèle, c'est hors de question. Du coup, on a pu pencher là-dessus, on leur a fait un proto, ils ont bien aimé. Du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, ils nous ont permis de changer un peu l'histoire. Donc on n'est pas exactement dans la même trame narrative
que le jeu original. On a exactement les mêmes règles, mais on est dans un arc différent, en fait, à un autre endroit du secteur de la galaxie, avec d'autres protagonistes et une autre histoire. Ce qui permet aussi de prendre un peu plus de liberté au niveau de l'introduction des règles et d'avoir une campagne, une carte de campagne qui fait très aussi jeu société, avec des pions à déplacer, des choses comme ça pour déclencher les combats par la suite. Et au niveau des batailles, ce qui est intéressant, et on a pu voir en faisant tester du coup à des gens qui connaissaient déjà le Battlefield Gothic, qui avaient joué à l'époque, qui ont des flottes, etc. Ils nous ont dit clairement, c'est jouissif de pouvoir rejouer à ce jeu, puisque bon, à l'heure actuelle, il n'y a plus énormément d'adversaires à trouver. Les vaisseaux sont introuvables à part sur eBay à des prix prohibitifs. Et du coup, la fluidité des règles sur mobile permet aussi de jouer plus rapidement. Là où avant, c'est typique des jeux Game Workshop, mais il faut sortir son mètre ruban, il faut mesurer quand on se déplace. Les vaisseaux tournent un certain angle, donc c'est 45 degrés, c'est pas 46. Donc c'était aussi l'occasion de faire des bonnes prises de tête avec son adversaire si on n'était pas très fair-play. Et du coup, avec la version mobile, tout ça est extrêmement simplifié. Même si toutes les possibilités restent là, dans le flux du jeu, c'est complètement fluide. On joue, on avance, on peut pas se tromper quand on calcule les angles, quand on calcule les distances. Quand on veut tirer avec ses batteries d'armes, il n'y a pas de tableau à consulter, il s'est fait par la machine, forcément.
Tu as des aides, tu as un petit cercle qui va apparaître pour dire que ta portée, elle est de temps.
Voilà, on a un cercle qui apparaît pour la portée, donc on sait quand on se déplace qui va être à portée. Mm-hmm. Avant de tirer, on sait combien de dés on va jeter et combien il faut faire pour toucher, etc. Toutes les infos sont montrées, ce qui est très utile forcément pour le joueur. Et quand on passe à l'action, les dés sont jetés, ils roulent sur la table, ils apparaissent. Il y a ce sentiment de figurine. Et donc on suit l'histoire, donc comme ça on enchaîne dans les batailles en récupérant des nouveaux vaisseaux, comme si on avait des nouvelles figurines. On peut les améliorer en gardant donc le principe des règles de campagne qui étaient déjà fournies avec le jeu. Et on avance comme ça. Après, il y a aussi toute la partie multijoueur, puisqu'on va pouvoir jouer donc en hotseat en un contre un sur la même tablette ou sur la même smartphone.
Oui, c'est la question que je voulais te poser. On parle d'un développement iOS et Android.
Alors pour l'instant, c'est iOS uniquement.
Alors pourquoi iOS ? Pourquoi est-ce que...
C'est des raisons marketing principalement.
Ça paye mieux Apple. Enfin, je veux dire, le retour sur investissement. T'as peut-être un retour sur investissement au niveau de...
Le marché n'est pas le même. Ouais. Déjà. Après, il y a d'autres choses qui interviennent dans l'équation. Donc, pour l'instant, on est iOS uniquement.
Ne te laisse pas distraire par tes camarades.
C'est un signe bizarre. Donc, une sortie Android n'est pas exclue complètement, hein. Mais pour l'instant, on se concentre sur la sortie iOS.
En multijoueur, donc. Et ça serait pour quand ?
Voilà, donc c'est prévu bientôt. Donc, on n'est pas maître complètement de la date de sortie, puisque Game Workshop a son mot à dire dessus. Mm-hmm. Donc, on devrait sortir très bientôt. Normalement, ça sera dans le printemps. Donc, on a jusque de toute façon.
Ah, le printemps du jeu.
Ouais. C'est un mot bien placé.
Donc c'est avant le 21 juin quoi.
Oui.
Bon ça va. Quand vous écouterez ce podcast, peut-être que vous l'aurez sur votre tablette.
Exactement.
Et donc ça a l'air d'être une aventure assez cool en fait. Vous avez renvoyé un mail à Games Workshop en disant nous on veut bien faire une adaptation de votre jeu. Ils ont dit oui, puis vous y êtes allé.
Oui, c'est ça.
Pas d'obstacle, pas de difficulté, pas de problème quoi.
C'était juste très long.
Ouais.
Même si on n'a eu aucun obstacle, ça a quand même pris presque un an pour signer le contrat. Mm-hmm. Donc, c'est quand même Game Workshop, c'est une énorme structure. Hein. Donc ils nous ont invités en décembre pour qu'on visite leur usine, leur studio. C'est super cool. Bon, ils sont 8000 personnes sur place quand même. Donc j'aurais jamais cru que c'était aussi monstrueux comme entreprise, comme logistique. C'est vraiment très très impressionnant. Du coup, automatiquement, dès qu'il y a des trucs administratifs à faire avec eux, ça prend un temps infini. Mais bon, ça, c'est la taille de l'entreprise qui veut ça. Mais au-delà du temps, on n'a eu aucun souci avec Game Workshop.
Et comment on fait quand on est une start-up Comment vous avez fait pour vivre pendant 2 ans en attendant d'avoir quelque chose à vendre?
Alors, ça a été la partie la plus compliquée en fait de l'histoire. Au final, on a pleuré pas mal de larmes de sang d'ailleurs pour réussir à survivre et à avoir des fonds pour avancer. Donc c'est un mélange en fait de financements publics, régionaux, de prêts à la banque, même si la plupart nous ont dit de faire un Kickstarter. Donc c'était assez compliqué. Quand on a commencé la production, on n'était pas sûr à 100% d'arriver au bout. Là, au final, on a plus ce souci. Heureusement, parce qu'on a réussi à trouver des soutiens donc, dans les organismes publics comme BPI France ou la banque au Crédit Agricole.
Merci à eux.
Merci à eux, voilà. Ils ont cru en nous, c'est bien gentil. Et c'est vraiment pas évident quand on est dans ce secteur d'activité, en fait, en particulier parce qu'on n'a pas de retour sur investissement immédiat. Donc là, ça fait 2 ans que la société vit, on a automatiquement fait aucune rentrée d'argent. Donc pour intéresser des banquiers et pas perdre trop de points dans leur système obscur, c'est assez compliqué.
C'est pas un vrai métier de toute façon, développeur de jeux vidéo.
C'est pas un métier du tout. Ça devrait pas être payé.
Florent.
Oui, j'avais une question justement pour toi. Pourquoi ne pas avoir exploré la piste du Kickstarter justement?
Alors on y a pensé, mais de manière générale, le jeu vidéo sur Kickstarter. À part quelques exceptions, il y a tellement de projets et au final, en particulier pour un jeu mobile où le prix du jeu est très bas, les gens n'ont pas forcément envie de pledger. C'est pas ça qui va vraiment financer en fait le projet. Il y a aussi le fait que on n'a même pas tenté parce qu'on savait pertinemment que Game Workshop ne laisserait jamais faire un Kickstarter sur un jeu qui porte leur marque de toute façon. Donc ça nous est pas venu à l'esprit. C'est pas du tout le genre en fait de la maison. Et chez eux.
Oui, Flan.
Oh, c'est bon.
Et vous payez la licence, je suppose. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez droit? Est-ce que tu as le droit d'en parler ou pas?
Je pense que j'ai le droit d'en parler.
D'accord. Enfin, je pense que tu. Alors, comment est-ce que je pourrais une question pour voir un peu plus?
Disons qu'ils ont un système de licence assez souple. Dans le sens où, en fonction de la. Ils s'adaptent à la taille du studio et aux capacités des personnes en face. Donc on sait que certaines boîtes qui travaillent sur les Dawn of War par exemple ont mis la main à la pâte parce que c'est des grosses licences et des gros projets. Nous de notre côté on n'a pas forcément eu à payer quelque chose au départ.
Plutôt un pourcentage que...
C'est plutôt des royalties. Ouais. Ouais. C'est du droit à la propriété intellectuelle en fait.
Et le jeu sera à combien?
Alors on est parti sur une base de 6€.
C'est pas cher?
C'est pas cher. Alors,
c'est vraiment pas cher.
Disons que par rapport aux jeux, aux adaptations de jeux société classiques,
ouais.
C'est pas cher.
Ouais.
Par rapport aux jeux grand public classique, c'est cher.
C'est cher.
Donc la grosse difficulté pour nous, ça va être de ne pas intéresser uniquement les vieux de la vieille, qui bon, eux, on se fait pas tellement de soucis par rapport à leur intérêt sur le jeu, et on sait que sortir 6€, ça va pas être un problème. Mais si on veut toucher plus de monde, il faut penser sur les joueurs plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, et du coup c'est un peu plus compliqué, donc on peut pas mettre non plus un tarif trop élevé.
Par rapport, est-ce que tu connais Battlelore?
Non.
Tu connais pas Battlelore? C'est une des meilleures adaptations de jeux de société sur tablette.
Plusieurs, mais alors Battlelore.
Et ça m'y fait penser parce que là, c'est aussi un jeu où on va envoyer des dés, où on va placer des unités, où il y a une gestion en fait des attaques et de la portée quand les adversaires répliquent.
Mm-hmm.
Et c'est très 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 bien fait. C'est des vendeurs aussi. Non. C'était des œuvres vendeurs, mais c'était racheté par. Ça n'a pas été racheté?
Non, j'ai connu à l'époque de Days of Wonder, mais après, je sais pas par qui ça a été
Jérémy,
racheté.
Jérémy, pourquoi t'es parti, Jérémy? T'aurais su, toi. Non, je pense que ça a été. Ça a dû être racheté. Et. Oui, c'est un très très bon portage. Si je vais te poser des questions, t'es pas obligé de répondre. Mmh. Puisque là, on est plutôt dans l'aspect financier. Combien est-ce que t'espères en vendre? Et combien il faut que t'en vendes pour que ce soit rentable pour vous? Ah, c'est-à-dire, pour vous, ouais. Vous êtes combien? L'équipe de développement Grand Coldron, c'est combien?
On est 6 personnes.
6 personnes.
Ouais, donc ça fait des charges assez élevées, puisque ouais. La plupart sont en CDI.
Ouais.
Donc combien on doit en vendre pour que ça soit vraiment rentable? Il faut qu'on en vende 100 000. Pour couvrir les coûts de développement.
D'accord.
Après, on n'a pas besoin d'en vendre 100 000 pour vivre, mais au final, on aura perdu de l'argent si on en vend. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Après, on espère du coup en vendre au moins 100 000.
Ouais.
Et vu des nombres de personnes dans la communauté Game Workshop, je pense que c'est atteignable.
D'accord. J'ai pas d'idée. Hein. Je trouve que 100 000, c'est déjà énorme.
100 000, c'est beaucoup, mais c'est vrai que la communauté Game Workshop est assez particulière. Parce que entre les gens qui s'y intéressent sans vraiment acheter, ceux qui achètent les livres, ceux qui achètent les jeux, ceux qui achètent les figurines, il y a vraiment tout un panel en fait de personnes. Mais c'est une communauté qui est vraiment très importante.
Oui, parce qu'on voit encore plein de boutiques Games Workshop un peu partout. On se dit que, moi je me suis dit qu'à un moment donné ça allait mourir et qu'on allait passer à autre chose, mais non, ils sont encore beaucoup. Si tu nous dis qu'ils sont 8000 là-bas, c'est que.
Ah oui, c'est. Bah, ils ont même un.
C'est qu'il y a du business.
Il y a même une antenne UPS implémentée dans Games Workshop, tellement ils ont des envois de colis en fait par jour. C'est assez incroyable. Et aussi quand on voit typiquement les livres, je pense que. C'est ce qu'ils vendent, leurs bouquins, je pense que c'est ce qu'ils vendent le plus, même au-delà des figurines. Parce qu'on voit souvent des livres qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires, en fait, alors que c'est du roman, que dans le milieu de l'édition de livres, atteindre des sommes, enfin des montants pareils, c'est fou. C'est très rare d'atteindre des chiffres comme ça dans l'édition. Et que eux, avec leur univers, ils arrivent régulièrement à en vendre 2-3 millions, ça montre qu'il y a quand même une grosse communauté derrière.
C'est impressionnant. Je reviens un petit peu sur la partie développement. Tu dis qu'il y a beaucoup de dés. Est-ce que donc je pense que comme c'est du mobile, il va y avoir une IA.
Oui.
Est-ce que ça c'était un gros problème ou est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que c'est facile à développer une IA de jeu de stratégie?
Alors c'est pas facile, mais c'est pas forcément ce qui pose le plus de soucis. D'un point de vue technique, le réseau est beaucoup plus problématique. Mais au niveau de l'IA, c'est pas compliqué à mettre en place. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte qu'elle joue bien, sans rouler sur le joueur. Donc elle a un comportement un comportement qui est l'air humain au final. Le souci qu'on peut avoir, c'est si elle joue trop parfaitement, si elle garde toutes ses unités toujours alignées à la perfection, etc. Il faut en fait commencer par faire une IA qui joue le jeu, qui applique les règles, et après il faut lui rajouter des défauts. En disant, il faut que de temps en temps, quand même, elle fasse pas toujours les meilleurs choix, etc. Là où on a eu en plus des complications, c'est par rapport aux tyrannides, qui sont les ennemis du jeu, donc c'est une flotte d'extraterrestres, en fait, moitié alien, moitié insecte, on va dire.
Excuse-moi, c'est ceux qui sont les ennemis dans.
Dans notre jeu. Dans la campagne.
Mais dans le. Dans Space Hulk.
Dans Space Hulk aussi, c'est des génies stellaires, ils appartiennent aux tyrannides, tout à fait.
Et on voit les gens qui savent de l'autre côté de la table.
Exactement.
On les entend pas, mais on les voit.
Et typiquement, dans Battlefield Gothic, ils obéissent à un comportement instinctif. Hein, ouais. C'est très particulier aux tyrannides. Ce qui fait que ça peut arriver qu'en fait, ils suivent des décisions qui ne sont pas logiques parce qu'ils ils obéissent pas à l'esprit de la ruche, etc. Et quand on testait l'IA, ce qui est compliqué, c'est de déterminer quand elle fait n'importe quoi parce que elle est mal codée ou quand elle fait n'importe quoi parce qu'elle a un comportement en fait automatique et que c'est inclus dans les règles. Donc comment le joueur ressent ça de son côté quand il fait de la campagne, quand il voit les ennemis foncer tout droit alors qu'ils ne devraient pas, etc. C'est plus dans le ressenti du joueur en fait que ça va se jouer l'intelligence artificielle que vraiment dans la technicité.
Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Au niveau des artworks, vous avez eu une latitude ou alors vous avez été c'est by the book une retranscription du lore Warhammer?
Alors on a théoriquement, on a le droit d'utiliser tous les concept art de Game Workshop, ouais. Les illustrations des bouquins. Si on avait eu envie de les mettre dans le jeu, on aurait pu, mais on a préféré pas le faire et on a eu donc notre artiste qui a tout refait. Un artiste d'ailleurs qui avait travaillé sur le dernier Indomné Satanis.
Oula.
Voilà.
Celui qui sait pas faire les pieds.
Je sais pas si c'est celui qui sait pas faire. Il a fait deux illustrations, deux ou trois illus.
Ah bah c'est peut-être pas celui qui sait pas faire les pieds. Mais... Ah parce que ça, Indomné Satanis, l'illustration, il faut pas l'acheter pour ça. Mais faut pas Indomné Satanis, faut pas l'acheter non plus pour les règles.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'Indomné Satanis, faut pas l'acheter. Mais bon, passons. Mais c'est pas de ça dont on parlait.
Ah, tu me fais de la peine parce que j'étais un grand joueur dans ma jeunesse.
Oui, mais l'achète pas parce que là, bon, on en parlera tout à l'heure en off. Mais non, c'est.
Ok.
Il faut pas acheter la nouvelle édition.
On a refait les illus.
Tu vas être malheureux.
Surtout parce qu'en fait, on se base dans un setting, donc dans une campagne narrative qui est assez récente.
Ouais.
Et où toutes les illustrations sont assez modernes, la nouvelle ligne artistique de Game Workshop. Mais nous, on a voulu plus s'orienter vers le old school avec plutôt genre la troisième édition de Warhammer 40 000, avec des illustrations en noir et blanc, avec des portraits très tranchés, ouais. des bonnes sales gueules, etc. Du coup, on a refait plein de portraits peints à la main, à l'encre de Chine et tout ça.
Donc c'est en fait vous êtes revenu un peu en arrière, vous avez pris un style proche de ce qui existait déjà mais sans être exactement dans les canons de Warhammer.
C'est ça.
Ce qui fait que vous avez pris des risques mais qui étaient des risques un peu mesurés dans le sens où vous revenez sur quelque chose qui existe déjà.
Tout à fait, ouais.
D'accord.
On revient un peu aux sources en fait, surtout à l'époque où Battlefield est sorti. On était dans cette période très grimdark, ce qui s'appelle sur Internet, c'est un peu péjoratif, mais. C'est très sombre, très noir et blanc. Ouais.
Et tu disais les problèmes techniques que vous avez rencontrés, les plus gros problèmes, c'est des problèmes de réseau.
Bah,
c'est pour le multijoueur ou c'est.
En technicité pure, on n'a pas rencontré de vrais gros soucis.
Ouais.
Mais le plus compliqué, ça a été le réseau. Surtout sur mobile, où en plus le réseau n'est pas stable. Du coup, comment gérer les pertes de connexion, comment gérer les joueurs s'ils sont en Wi-Fi, ça passe, mais en 3G, c'est pas la même chose, surtout que Battlefield, c'est des parties qui sont quand même longues. On n'est pas sur des parties courtes de 5 minutes, c'est du gros jeu de société, donc même si ça a été accéléré avec l'adaptation, on reste sur une heure la partie.
Ah ouais, quand même.
Donc, comment faire en sorte que ça reste stable pendant une heure, c'était le plus compliqué.
Et on peut revenir en arrière dans votre jeu ?
C'est-à-dire ?
Parce que ça sent insupportable. Parce que tu cliques et on dit non ! Enfin, tu continues et tu peux pas revenir en arrière, en fait.
Alors, dans les déplacements, on peut revenir en arrière.
Quand même.
Sauf si on a tapé dans quelque chose. Par exemple, si on se jette dans des torpilles.
Oui, tu peux pas tricher.
Voilà, on va pas revenir en arrière.
Tu peux reprendre un coup en disant c'est pas trop ce que je voulais faire. Ouais, j'ai mon doigt.
Tant qu'il
n'y
a pas eu d'impact en fait, réel sur le jeu et sur ce qui s'est passé, des dégâts, des dommages qui ont été infligés au vaisseau, on peut revenir en arrière. Mais dès qu'il s'est passé quelque chose, c'est forcément bloqué.
C'est très compliqué de faire ce podcast ce soir. C'est très potache du côté ambiance et jeu. On voit le côté ambiance en fait. On parlait de lancer une brouette de dés, ça c'est l'intérêt, le gros intérêt, parce que je pense que le fait d'avoir des miniatures, le fait de pouvoir de ne pas savoir vraiment si tu vas être à portée et te dire je vais quand même y aller, je vais déplacer mon vaisseau, je suis pas à portée, ben tant pis pour moi. Mmh. Le fait de lancer une brouette de dés et de suivre ses tables, c'est peut-être ça le plus gros point, le plus gros progrès par rapport au jeu de société.
Alors c'est intéressant surtout dans un jeu comme Battlefield où c'est très précis au niveau des déplacements et des virages. Lancer plein de dés, on avait toujours toutes les 30 secondes le cas où les dés bougeaient les figurines. Et ça c'est un cas qui arrive tout le temps et je pense que tous les joueurs qui ont testé Battlefield un jour ou l'autre ont vu des dés bouger un vaisseau et après c'est la guerre pour le remettre comme il était. Là, c'est un problème qu'on n'a pas. Les dés tombent, bon, là, ils passent à travers les vaisseaux, ce qui paraît logique. Et alors, il manque peut-être le plaisir de tenir les dés dans la main et de les lancer. Ça fait partie du plaisir des figurinistes. Mais il y a aussi, disons que le plaisir se trouve ailleurs, de pouvoir suivre le jeu et suivre la partie sans les petites petites anicroches qui pouvaient résulter de ces petites choses.
Et puis, le jeu de base de la boîte devait faire 120 ou 140 euros, non, peut-être 80, 90, disons.
C'était l'époque où les boîtes coûtaient 50-60 euros,
ah.
Mais où il n'y avait pas grand-chose dedans. Donc ça a pas mal changé, le matériel a évolué. Mais disons qu'avec la boîte de base, ça suffisait pas vraiment pour faire une flotte qui tient la route, quoi. Donc il fallait racheter les figurines à part. Moi, c'est le modèle Game Workshop.
Ouais.
Mais c'était pas le jeu le plus cher. Ça faisait partie de la gamme spécialiste, donc il suffisait d'acheter quelques figurines, quelques boîtes pour avoir sa flotte et ça suffisait. Mais ça représentait quand même un investissement de 200-300 euros, quoi. Enfin, c'est pas négligeable.
Ouais. Donc le Grand Cauldron, c'est comme ça que ça s'appelle ?
Ouais, Grand Cauldron. Ouais.
Grand Cauldron, ça va sortir sur iOS incessamment sous peu. Certainement, quand vous entendrez ce podcast, ça sera déjà en ligne pour 6 euros seulement sur iOS. Donc il faut pas hésiter.
Merci.
Je t'en prie. Merci d'être venu. Ça va encore me coûter 6 euros cette histoire. Vous jouez sur mobile, Didier et Florent ?
Pas du tout, on n'a pas le temps, on travaille, nous.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Pas du tout, on n'a pas le temps, on travaille.
Très bien, très bien. Donc, ambiance et jeu, entre autres.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est, ambiance et jeu ?
Ambiance et jeu, en fait, c'est une association qui a été créée fin 2014. Ça faisait à peu près un an que j'étais sur Lyon, donc où à la base ça a été plus créé dans un objectif, on va dire, de tester un peu les demandes de jeux sur les différents secteurs lyonnais, sachant que quand je suis arrivé sur Lyon, j'avais pour objectif de développer des structures de jeux, que ce soit ou ludothèque ou bar à jeux ou des trucs comme ça, quoi. Et l'objectif, c'était vraiment de faire des animations et d'avoir des retours suivant les secteurs sur lesquels on animait, s'il y avait une demande, s'il y avait un besoin de développer ce type de structure. Et de fil en aiguille, malgré les animations itinérantes, parce qu'au début c'était de l'animation vraiment itinérante, c'est-à-dire qu'on allait sur les différents lieux d'accueil qu'on pouvait avoir, quoi, les partenariats qu'on peut avoir, de fil en aiguille, au final c'est devenu plus une association, un gros club de jeu, on va dire, qu'une structure d'animation associative, quoi. Donc oui, ça a démarré comme je disais fin 2014. Au début, ça a été qu'est-ce qui nous a permis de démarrer, c'est justement les Asmodée Café Tour, où on faisait les animations Asmodée sur justement différentes structures. Au début, le démarrage a été relativement difficile parce qu'on n'était pas nombreux sur l'association. J'avais Laurent, qui est un ancien du Ludopole, qui était avec moi justement, ainsi que sa femme, et on gérait justement toutes les animations. Mais bon, c'était assez compliqué parce qu'on faisait des animations les mardis soirs, les vendredis soirs, etc. Et quand on a une vie de famille, c'est-à-dire autant eux que moi, en ayant une vie de famille, le temps de réviser les jeux, puis en ayant une vie professionnelle à côté, tout ça, c'était assez compliqué. Donc voilà. Puis bon, forcément, après, il y a Didier qui a rejoint le bateau. Voilà.
Oui, et vous êtes combien d'adhérents dans l'association ?
Alors, on va dire que la première année, le démarrage a été assez difficile parce qu'il faut le temps de se faire connaître, malgré le fait qu'on fasse des animations itinérantes, on n'avait pas de lieu d'accueil. Donc, c'est-à-dire que les gens ne nous suivaient pas forcément. Si on était à un endroit et que c'était à côté de chez eux, ils allaient venir. Mais il n'y avait pas forcément de lieu d'accueil comme une association, comme une association classique avec des locaux et tout ça. C'est-à-dire que pendant la première année, on a frôlé difficilement la quinzaine d'adhérents.
Oui.
Et malgré la com, toutes les animations qu'on a mis en place, que ce soit en partenariat avec différents éditeurs, les soirées avec des auteurs, toutes ces choses-là, que ce soit même des initiations au jeu de rôle. Et il n'y a que depuis la rentrée septembre où on a eu vraiment une explosion de la demande ou des adhérents, des visites. En fait, depuis qu'on s'est installé au niveau du local sur lequel on est à l'heure actuelle, on est au Brotteau.
Vous êtes 17.
Dans le 6e. Ah non, on était une quinzaine. Et là, à l'heure actuelle, on est un peu plus de 70 personnes à l'heure actuelle, quoi. Voilà, pour une asso qui n'a pas 2 ans, quoi, c'est pas mal, quoi.
Et donc, vous avez maintenant des locaux ? Ça veut dire que tu parles de bar à jeux, tu parles d'associations, c'est des locaux uniquement où on vient jouer ? C'est ouvert toute la semaine? C'est ouvert certains soirs dans la semaine? Comment ça se passe?
Non, là à l'heure actuelle, en fait, justement, le truc, c'est que vraiment Ambiance et Jeux est devenu typiquement une association de joueurs,
ouais,
où on continue à mettre en place pas mal d'animations tous les vendredis, pas mal mmh. d'animations différentes.
Quand tu dis, ça veut dire que vous allez quelque part le vendredi?
Non, on reste toujours au même endroit. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est vraiment dans le 6e, enfin au Brotteau.
Tu peux donner l'adresse exacte?
Oui, c'est au 49 boulevard des Brotteaux. En fait, on a un partenariat avec le Brotteau Bridge Club.
D'accord.
Voilà, qui est dans ce secteur-là. Voilà. Et la question,
Savoir si on pouvait venir jouer chez vous, parce que tu parlais de bar à jeux tout à l'heure. Comment se passait? Est-ce que maintenant vous avez une régularité au niveau des soirs où les gens peuvent venir? Est-ce que vous avez une ludothèque? Est-ce qu'on vient avec ces jeux? Comment ça se passe?
Alors en fait, donc là à l'heure actuelle, on est vraiment sur des animations qui sont uniquement les vendredis soirs, quoi. À partir de 20h. Alors on va dire, dans le principe des locaux, c'est similaire à un bar à jeux, parce que forcément il y a un point buvette, etc. Après, au niveau des animations, tout dépend des programmes, quoi. C'est vrai qu'on essaie de dynamiser tous les vendredis, d'avoir une thématique précise, soit par exemple faire une découverte de nouveautés, faire venir un auteur, faire mettre en place des tournois, etc.
Oui, après on a mis en place aussi des soirées à toi de nous faire jouer, où là ça va être beaucoup des prototypes de jeux, des gens qui vont venir avec des jeux à faire découvrir. On laisse plus libre aux gens, voilà, de faire découvrir des jeux qu'ils aiment bien, etc. On essaye, alors dans l'absolu, on essaye de faire un vendredi sur deux où on fait vraiment une soirée à thème fort, avec à mettre un éditeur en avant, mettre une sortie de jeux en avant qu'on apprécie particulièrement, ou un peu de chauvinisme d'auteurs lyonnais, de la cale, des calistes.
Vous êtes tellement nombreux.
Oui. Après, on est nombreux. Après, il y a quand même quelques calistes qui commencent à devenir quand même des auteurs prolifiques et qui sortent quand même pas mal de jeux et des jeux super sympas.
On parlait pas d'Alexandre.
Mais j'ai pas parlé d'Alexandre. J'aime pas trop ces jeux à part Aquatica. Enfin bon, bref. Donc on essaye aussi de mettre en avant ça. Des soirées à thème dès que possible.
Voilà, pour revenir à ce que disait Didier sur les soirées qu'on appelle soirées à toi de nous faire jouer. C'est vrai qu'on a, pendant pas mal de temps, on s'est impliqué à mettre en place des animations tous les vendredis soirs, et c'est très chronophage, surtout quand on développe les activités qu'on développe en parallèle. Et l'idée, c'était de redonner un peu la main aux adhérents et leur dire, à un moment, qu'est-ce que vous avez envie de faire, plutôt que nous, on impose une thématique, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez nous présenter. Et finalement, ça marche aussi bien qu'une soirée thématique, parce que ça va être des soirées où il peut y avoir de l'initiation jeu de rôle, il y en a qui vont venir avec leur proto, avec leur propre jeu, et on a autant de fréquentation sur une soirée comme ça que sur une soirée thématique.
Combien de personnes?
À l'heure actuelle, on tourne entre, suivant les soirées, entre 25 et 50 personnes.
Oui, donc on peut trouver une table qui nous convient.
Oui, tout à fait.
Et à toute heure. Après, c'est vrai, comme disait Florent, au début, les soirées où il n'y avait pas de thème, pas de choses qu'on mettait vraiment en avant, on était à une quinzaine de personnes, et dès qu'on faisait un thème, 40 personnes. Et maintenant, c'est vrai que ça se nivelle vraiment, et on a toujours au moins une trentaine de personnes sur les soirées. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool.
Et vous continuez à faire des animations en dehors de ces vendredis. Par exemple, je crois que c'était vous. C'est vous qui étiez au musée gallo-romain il y a quelques mois. Non, je me trompe,
non,
je m'en fiche.
C'était au musée gallo-romain il y a quelques mois, c'était G2L2.
Donc c'est pas vous alors?
Non, c'était pas nous.
D'accord, je vais couper.
C'est
alors.
Les copains, mais c'est pas nous.
Ouais. C'était porté, porté par Trollune en fait. Il y a les G2L2.
Asmodée qui était présent.
Asmodée aussi.
J'étais persuadé que c'était vous. Mais, alors, en dehors des vendredis, qu'est-ce que vous faites?
Pourquoi on n'était pas là d'abord? On faisait des soirées Star Wars, non?
On avait des animations deux prévues, Star Wars, mais ça c'était via Elude aussi. En dehors des soirées, disons que avant, pendant un moment, on faisait des soirées les mardis ou d'autres jours dans la semaine, mais comme je disais,
vous avez
resté
en vendredi.
On a restreint en vendredi. Et on essaie vraiment de laisser un peu la main aux adhérents et eux-mêmes de proposer. Et puis forcément, ça nous arrange à l'heure actuelle qu'il y en ait qui dynamisent un peu eux-mêmes et que nous, on puisse se libérer du temps pour d'autres activités.
Je comprends ça tout à fait.
Que ce soit pour les activités pro ou pour la famille aussi, parce que forcément, ça en fait partie, quoi.
Parfait. Donc ça, c'est la première partie. c'est ambiance et jeu. En plus de ça, tu l'as dit il y a 30 secondes, Élude.
Élude.
C'est, ouais. Il y a deux L ou deux D, je ne sais plus.
Alors, il y a un L et deux D.
Et deux D.
Ouais, des fois je me trompe, je mets deux U et un D. Ça arrive. Bah, tu veux dire un petit mot sur Élude ?
Oui, bah, Élude, pourquoi Élude est né ? Tout simplement parce que c'est vrai qu'avec Florent, on avait des convergences sur une envie de se professionnaliser dans le monde du jeu. Et clairement, avec la forme qu'a pris Ambiance et Jeux, niveau ce que disait Florent de club de jeu, vraiment d'identité associative, on a décidé de détacher toutes les activités qu'on voulait mettre en place d'Ambiance et Jeux. C'est-à-dire que on a créé Élude, qui est clairement une structure, donc pour l'instant qui a un statut associatif, mais qui est une structure pour faire principalement de l'animation professionnelle. Donc ce qu'on va mettre en avant, c'est on va représenter les éditeurs sur les festivals, sur la région lyonnaise, donc le Grand Lyon. On est allé à Valence par exemple il n'y a pas longtemps.
Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que moi j'avais en tête des éditeurs qui ne payaient pas leur démonstrateur qui les payaient en jeu de société, donc trois fois rien. En prenant en charge l'hébergement et le transport, heureusement. Le fait d'entendre dire que l'animation de jeu de société peut être prise en charge professionnellement, je trouve qu'on va dans le bon sens et que c'est bien.
Mais on est vraiment dans une période à l'heure actuelle, avec l'évolution actuelle du jeu de société, où justement l'animation se professionnalise, quoi. Voilà, j'aurais peut-être des exemples à te donner sur la façon dont ça se déroule. Une animation, quand c'est tenu de manière bénévole, forcément c'est pas la même implication que quand c'est fait de manière professionnelle, que tu as des bilans, des photos, etc., etc. Voilà, c'est vrai qu'il y a une démarche différente et une responsabilité différente forcément quand tu gères une animation, quoi.
Et quand c'est un travail ou quand c'est un passe-temps.
Voilà, tout à fait.
Excuse-nous, Didier.
Ah ben, c'est très bien. Très belle intervention. Non, donc oui, justement, donc on représente principalement les éditeurs sur les festivals. Donc ne vous déplacez pas, on est là pour vous sur Lyon, faites-nous confiance. Donc ce qu'on met en avant, c'est des animateurs pros. Souvent, c'est des gens du monde du jeu, donc qui sont passionnés par ça. Donc,
ils connaissent les règles, peut-être.
Connaissent les règles, ils ont joué plusieurs fois au jeu. Ils découvrent pas le jeu sur le salon. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est des bilans, c'est de la com en amont, pendant le festival, après le festival, un bilan, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut mettre en avant via Élude. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on a dans l'optique de créer un lieu de jeu, parce que on est cynique clairement.
Pourquoi
sur... Comment ?
Pourquoi un lieu de jeu ?
Eh ben, sur Lyon, il y a deux bars à jeux.
Il y a plein de boutiques.
Voilà, mais il n'y a pas de lieu de jeu. En fait, il y a deux bars à jeux, donc, qui sont La Triche et Les Épinards.
Ouais.
Qui sont dans le premier, et voilà. Et donc, c'est des bars historiques quand même, hein, dans le monde du jeu. On apprécie aller, etc. C'est vrai que moi, de Bron, pour aller à La Triche, c'est vrai que c'est vraiment plus compliqué. Et puis, La Triche est victime de son succès quand même, ouais. Parce que quand on sait qu'il peut y avoir maximum 50 personnes et que c'est comme ça, forcément, moi, je me souviens, quand j'allais à La Triche, je t'appelle ce soir, on va à La Triche, ok, on y va une dizaine, on est cool d'être là-bas, voilà. Donc, ça manque vraiment de lieux de jeu sur Lyon, et il pourrait y en avoir. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui cherchent vraiment à ouvrir des lieux de jeu et qui risquent pas d'y avoir de concurrence là-dessus, parce que Lyon, c'est vraiment très grand. Il y a beaucoup de boutiques, comme tu dis, je pense suffisamment.
Parle bien dans ton micro, sinon je vais me faire engueuler.
Suffisamment, maintenant. Merci. De boutiques, excuse-moi.
Et oui, il y en a beaucoup, mais historiquement, il y a toujours eu beaucoup. Il y a eu une vie ludique importante. Il y a énormément d'auteurs. La CAL, c'est la jeune génération, je dirais. Il y a Catala, Boza. Bon, après, il y a l'autre Bruno qui est un peu plus loin, mais il y a quand même beaucoup de et puis il y a Serge Lager aussi qui viennent de chez nous. Effectivement, et puis on est quand même la deuxième agglomération de France, donc il y a moyen.
Voilà. Donc clairement, ça a cet objectif, que ça soit nous personnellement ou en partenariat, enfin voilà, il y a plein de possibilités, on est sur plein de pistes différentes, etc. Mais en attendant, on n'a pas de lieu fixe, donc on essaye de façon itinérante du mieux possible de aussi d'organiser des journées pro des éditeurs, parce qu'avant ça se faisait au Ludopole.
Oui.
Voilà, donc malheureusement le Ludopole n'est plus, donc on essaye vraiment de proposer aux acteurs ludiques et notamment aux éditeurs de pouvoir les accueillir pour organiser des journées pro sur Lyon. Donc,
c'est quoi une journée pro ?
Alors une journée pro, ça va être les éditeurs qui essayent de réunir les boutiques qui sont proches d'une grande ville, donc tous les réunir pour une journée, leur montrer les nouveautés pour au lieu de passer de boutique en boutique, clairement les accueillir sur une journée, leur proposer une journée conviviale autour du jeu, découvrir les jeux, etc., et après échanger sur une journée ou plus tard sur les achats pour la boutique, ça permet clairement aux boutiques de découvrir les jeux, de pouvoir passer un moment vraiment avec les éditeurs, de les rencontrer aussi, parce que souvent les boutiques ont les éditeurs au téléphone et découvrent des nouveaux éditeurs aussi qui ont envie de rencontrer leurs partenaires privilégiés, quoi. Parce que pour un éditeur, une boutique, c'est clairement important, quoi, primordial. Donc nous on essaye de réunir les conditions vraiment le mieux possible avec ce qu'on peut faire actuellement pour accueillir toutes ces boutiques et aider les éditeurs justement à organiser ces journées. Donc ça, c'est quand même une activité qu'on essaye vraiment de mettre en avant via Elude. Et puis après, on va faire des animations aussi. Donc il y a vraiment la partie avec le monde du jeu, et puis la partie avec la municipalité, on est intervenu là deux fois en maison de retraite. C'était très sympa. C'est un public que vraiment on a découvert. Et c'est cool.
Ouais, très cool, cool. Ouais, très sympa. Ouais. Je recommande de tester au moins une fois une journée ou un temps de jeu en maison de retraite. C'est vraiment très sympa. Enfin, pour moi qui, à l'heure actuelle, suis en ludothèque, entre l'animation avec des enfants et l'animation avec des personnes âgées, c'est le jour et la nuit, mais c'est vraiment très fun, quoi. Ils savent vraiment même tourner le jeu à la dérision, à se moquer d'eux-mêmes et tout ça. Puis c'est autre chose, quoi. Et
puis ils ont peut-être une culture du jeu, même si c'est les jeux... la coinche, leur ami, les jeux de cartes traditionnels que les enfants n'ont pas. Ils ont peut-être un recul aussi sur le jeu de société que les plus jeunes.
Oui, je sais pas si on peut dire un recul sur. Ils ont une expérience du jeu qui est quand même différente de ce qui se passe à l'heure actuelle comparé aux jeux modernes. Mais après, ils sont pas fermés. Pas fermés. Au début, ils regardent ça un peu de travers quand même. Ils jaugent de loin. Qu'est-ce que c'est? Avec quoi ils arrivent? Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Puis une fois qu'il y en a un qui arrive comme ça et qui commence à découvrir, qui dit à l'autre, ah ben viens jouer et tout ça, puis qu'on interpelle un autre. Et en fait, il passe vraiment un bon moment, quoi. C'est vraiment c'est un plaisir, quoi, d'animer sur des maisons de retraite, quoi.
Oui, et puis justement, on essaye de trouver des jeux où ils se raccordent un peu à des choses qu'ils connaissent, type Quirkle, par
le Scrabble,
etc., quoi. T'as vraiment des choses. Quirkle.
Le Scrabble.
Ouais. Donc donc ça aussi on a une partie, on a fait le à Villeurbanne, on a fait le marché de Noël, donc très sympa sur le parvis de ouais, on a fait de l'animation de jeux de société, super bien accueilli par les enfants évidemment.
J'ai honte.
On a joué à quelques jeux sur le parvis de
parle bien dans ton micro tout
sur le parvis
ne se coupe pas la tête parce que sinon ça va être horrible
de la mairie et voilà quoi.
Et quand vous dites un lieu, je vais être un petit peu poser des questions un petit peu. Comment on fait pour rentabiliser un lieu où on joue? Qu'est-ce qu'on fait payer? On fait payer une adhésion pour jouer, un droit d'entrée, une location de jeu. Comment est-ce que vous faites pour...
Tout dépend de la façon dont on développe la structure, des différents services qu'on peut avoir sur cette structure. Forcément, après, on peut avoir forcément sur une structure... Tout dépend, comment dire...
Votre projet, en fait.
Le projet, on va dire que c'est plus de développer une maison des jeux.
en quelque sorte, le projet de base, où il n'y aura pas forcément que de jeux de société. C'est vraiment le jeu sous toutes ses formes. Ça, ça peut être même travailler avec d'autres structures du milieu du jeu. Ça peut être tout ce qui touche le jeu vidéo, tout ce qui touche le jeu de rôle, etc. Vraiment toutes les branches du jeu en général, quoi, de tout ce qui touche le ludique. Après, une des choses qui forcément fait vivre ce type de structure, ben forcément, si on a un point restauration, buvette, c'est comme un bar, hein, forcément, ou comme un bar à jeu, c'est le nerf de la guerre, quoi, hein, les boissons qui sont vendues, tout ce qui est grignotage, etc. Mais on a aussi toute cette partie animation ou accueil de pros, enfin de journée pro, etc., où tous ces événements qu'on peut développer à un moment, en fait, tout ce qui est animation, qui permettent de faire vivre le lieu, de faire connaître le lieu et de faire augmenter justement cette fréquentation, quoi. Voilà. Okay. Forcément, c'est déjà faire vivre le lieu, quoi. Vraiment avoir une animation et surtout la communication, parce que je pense que la com c'est énorme sur des structures comme ça.
Ouais, en plus un lieu de vie qu'un lieu de passage.
Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà. Après, pourquoi revenir à Élude. Pourquoi Élude? Parce que justement, Lyon, en fait, c'est considéré comme pour beaucoup de joueurs comme une ville du jeu, comme un lieu presque une capitale du jeu d'une certaine manière. Ça, je l'ai déjà entendu, quoi.
Bah, tu l'as entendu dans notre podcast, peut-être déjà.
pas que par ton biais, mais même par des éditeurs ou des gens qui ont essayé de développer des événements sur le secteur lyonnais à une époque et tout ça. Et clairement, il y a quelque chose à mettre en place, il y a des choses à construire, il y a de la place pour beaucoup de monde, et je pense qu'à un moment, il y a besoin de gens qui prennent les choses en main et qui portent ces projets, qui les développent. C'est vrai que clairement, après, ça fait peut-être, je dirais même arrogant, un moment de dire, dès le début, je me suis dit, tiens, j'arrive sur Lyon, je vais développer un réseau de barres à jeux et tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a des trucs à développer, il y a une demande par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, les retours que j'ai eus et tout ça. Et le truc sur des projets comme ça, c'est d'aider même les gens à un moment qui ont besoin de développer ces projets à développer leur propre projet, quoi. C'est-à-dire que forcément, c'est pas nous deux ou même avec les quelques personnes qu'il y a derrière nous qu'on va développer 3, 4, 5, 6 barrages, quoi. Non, il y a vraiment des choses à mettre en place sur Lyon. Et c'est des projets que nous, on est franchement à fond pour porter ce type de projet-là, quoi.
Donc si jamais moi j'ai envie de monter un bar à jeu, je peux faire un petit mail en disant, au fait, est-ce que je peux, est-ce que vous m'aidez
Alors, on va dire qu'en termes de
projet... Alors, j'ai mon projet, hein, je viens pas en disant comment je fais, j'ai mon projet...
Alors, on va dire que justement, en termes de toutes ces choses-là, on va dire que je suis un chieur de première. C'est-à-dire que déjà, il faut que je te connaisse, il faut que je voie si vraiment t'es fiable, si ton projet il tient la route. Et après, oui, en avant, quoi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va venir me dire « Ah tiens, je vais monter un bar à jeu et tout ça », je vais attendre de voir si la personne revient, si vraiment il y a une envie de porter déjà, s'il y a une motivation, une énergie là derrière et tout ça. Et si cette personne même à un moment veut être dans des projets avec nous, même développer des projets avec nous, c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on n'a jamais été fermé, quoi. Je pense que c'est un peu le problème. Enfin, je vais jeter un peu de l'huile sur le feu et brûler un peu une partie de Lyon, mais c'est un peu le problème qu'il y a depuis que je suis arrivé ici. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup de structures ou d'associations qui sont pas forcément solidaires à l'heure actuelle et qui devraient plus se serrer les coudes, parce que y a rien à perdre, il y a tout à gagner à un moment, monter des projets ensemble, quoi. Mais il y a vraiment cette peur que l'un mange l'autre, clignote l'autre et tout ça. Et
ouais, alors que le gâteau, il est proportionnel au nombre de mangeurs.
C'est ça.
En fait.
Et qu'il y a vraiment de quoi faire, quoi.
Et plus il y aura des gens qui vont faire vivre le milieu du jeu, et plus le gâteau il sera gros, parce qu'il y aura plus en plus de gens qui voudront venir dans les bars à jeux, plus en plus de gens qui vont acheter
les
jeux.
Le gâteau, il est tout petit, hein, pour l'instant.
Il y a qu'à voir le nombre de boutiques, en fait, qui s'est monté. Il y en a beaucoup par rapport. Ça semble quand même assez important par rapport au nombre à la ville. Donc
Oui, ça reste quand même assez conséquent, mais au final, ça sert à quoi d'ouvrir une boutique si il n'y a pas d'animation autour du jeu, quoi.
Tout à fait. Non, mais je veux dire,
c'est vraiment notre optique, c'est de faire vivre le jeu, dynamiser, faire découvrir.
Quand on voit sur l'ensemble de nos animations les gens qui découvrent les jeux modernes, les gens sont joueurs. C'est juste qu'ils connaissent pas nos jeux modernes, ils ne connaissent pas. Et ils découvrent ces jeux-là, ils se disent c'est génial, quoi. Je peux jouer à ça. Un jeu. À l'époque, je me rappelle, nos parents, pour jouer un jeu avec nous, c'est vraiment je sors le jeu avec mon gamin, quoi. Mmh. Maintenant, les bons jeux pour enfants, même les parents ont envie d'y jouer, quoi. Ouais, donc, à un moment, voilà. Et les gens découvrent ça. Il y a vraiment un potentiel sur Lyon de gens qui ont envie de jouer, de familles joueuses. Et c'est par l'animation, de toute façon, et la mise en avant de tous ces jeux-là qu'on va arriver à, voilà, à que les gens prennent vraiment plaisir et découvrent tous ces jeux-là, quoi. Mmh. Clairement.
Non, mais je vois vraiment, enfin, moi, par rapport à, la, à mon vécu et ce que j'ai connu du jeu à l'époque, je me rappelle il y a 25-30 ans, non, je dirais pas mon âge.
Putain, je me rappelle, je suis un vieux, il y a 30 ans.
Je me rappelle les réunions de famille qu'il pouvait y avoir autour d'un Monopoly, de la bonne
Trivial Pursuit.
C'est Trivial Pursuit, tous ces classiques et tout ça. Et toutes ces réunions de famille qui se faisaient autour des jeux de société et qui étaient des moments très, très fun, quoi, très sympa. Et ça s'est perdu. Ça s'est perdu pourquoi ? Parce que la vie évolue, le rythme de vie, le stress, moins de temps pour jouer. Etc.
Le jeu vidéo, gros coldron. Les gens sont sur leur écran là. Et...
J'accuserais plus les smartphones.
Non, mais je dirais même plus en termes de temps de jeu, quoi. C'est-à-dire que maintenant, faire un Monopoly, même si le jeu, on va pas lui cracher dessus, ça reste quand même un jeu qui a eu une belle vie et qui reste malgré tout sympa. Voilà, il fait partie des grands classiques.
Réagissez donc, c'est à peu près 1h45 de podcast. Il faut que je le note.
Faut pas cracher sur les racines, ça fait partie des racines du jeu, quoi, malgré
tout. Alors, excuse-moi, je peux pas, il faut que je fasse interlude. Si vous voulez jouer à un Monopoly, jouez à Marrakech. Marrakech, c'est comme le Monopoly, mais c'est en plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant.
Bon, je dis pas que je referai une partie de Monopoly à l'heure actuelle, mais si on voit l'évolution des jeux à l'heure actuelle, bah c'est vrai que les jeux sont plus accessibles.
Et plus courts, ouais.
Voilà, ouais. Plus courts, plus digestes au niveau des règles. Bah pour la majeure partie des jeux, les règles sont mieux rédigées. Ouais. Sauf pour certains grands éditeurs dont je tirais le nom, mais.
Queen Game. Mais c'est Google qui lui fait ses traductions, c'est pas.
Je pense plus pour les jeux enfants, des fois, quand on lit les règles. Quand on lit les règles, on se dit, mais. Voilà. Autant des jeux qui sont pour un public joueur ou qui ça de, enfin, des jeux classiques, les règles sont bien rédigées, mais il y a certains jeux que je découvre en ludothèque, de certaines enseignes où les règles sont imbuvables. Voilà. Mais bon.
Voilà. De jeux modernes.
Dans les jeux modernes, oui, tout à fait. Ouais. Dans les jeux modernes, en termes. Bon, de toute façon, la règle, c'est important, hein, à partir du moment où la règle est mal rédigée, etc. Enfin, tu sais ce que c'est. Voilà. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que le jeu à l'heure actuelle, bah, il a tellement évolué positivement que les gens réalisent en fait qu'ils ont, enfin, il y a eu cette cassure et qu'ils rattrapent le wagon en découvrant des jeux qui sont, bah, qui sont fun, qui sont adaptés en termes de temps et en termes d'accessibilité pour la famille, etc. Et qu'on est vraiment dans une période, bah, peut-être que le mot est fort, mais je trouve qu'on est dans une période d'explosion au niveau du jeu en général, et que là, c'est la période, la bonne période pour développer le jeu sous toutes ses formes et sur tous ses axes, que ce soit même au niveau professionnel, quoi.
Mmh. Voilà. Oui, parce qu'il y a tellement peu de choses qui sont... Enfin, outre les éditeurs, il y a beaucoup de... Les éditeurs et les boutiques, il y a peu de professionnels. Les auteurs ne sont pas tous professionnels, loin de là. Et puis autant
les auteurs. Tu parles pas de la cale, j'espère.
Bah, à part Alexandre, encore lui, les médias sont pas professionnels.
Et à part notre as d'or, Fred, quand même.
Attends. Oui, oui. Oui, il est professionnel.
C'est un professionnel maintenant. Il va me taper dessus.
Quoi? Il a acheté sa Mercedes et tout ça, comme il avait dit.
Oui, je pense.
Ou une Porsche. Ça, je sais plus ce qu'il avait dit. Les médias sont pas professionnels et il y a quand même beaucoup d'échelons là-dedans qui sont pas.
Les médias sont pas professionnels. Je sais pas si on peut pas dire qu'ils sont pas professionnels. Ils ont peut-être pas un statut de professionnel, mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de médias qui se développent et qui commencent à faire un travail. Enfin, tu t'y connais peut-être plus. Enfin, sûrement même mieux que moi sur ces médias.
Mais non.
Il y en a qui font un travail de professionnel et qui à un moment, qui dit professionnel dit payer, quoi, rémunérer, quoi.
On parle de Ludovox ou pas?
Si tu veux.
Parce que pour moi, il y a Tritrac, il y a Ludovox, puis après, il y a des petits comme nous, mais si tu veux, nous, on est une voix parmi d'autres. Et nous, on est le relais, en fait. On a un avis. Si on n'existait pas, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des éditeurs qui nous aident, qui nous envoient des jeux très peu, mais il y en a quand même. Dans d'autres domaines comme le cinéma, comme le jeu vidéo, il y a des journalistes qui vivent de ça. Il y a d'autres chaînons de la chaîne, d'autres maillons de la chaîne, pardon, qui est de l'écosystème, qui sont professionnels. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'éditeur qui a une grosse part, la boutique heureusement, qui vit et qui prend sa part jusqu'à présent à l'animation autour du jeu de société. C'est bien que vous arrivez là-dessus. Et après, les autres n'existent pas forcément. Et Ludovox fait un super travail. Et à ma connaissance, malheureusement, le modèle économique, il suit pas. Donc voilà, au final, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un équilibrage, il va y avoir quelque chose. Et j'espère qu'on va aller dans le sens où on pourra avoir des médias qui seront objectifs et qui pourront vivre de ça, qui pourront parler. Alors, je dis pas que Trek Track n'est pas objectif. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qu'il y aura vraiment une émulation comme ça qui permettra à beaucoup de gens de pouvoir passer du temps, donner de l'énergie et pouvoir se donner pour le jeu de société, parce qu'en fait c'est ça le problème. C'est-à-dire quand tu fais ça en dilettante, t'as un boulot à côté, tu l'as dit, c'est exactement ce que t'as dit, c'est exactement ton cas où il y a la famille, il y a le travail, et puis après c'est la passion. Et on donne pour notre passion, mais en fin de compte, on fait ce qu'on peut. Quand on est payé pour faire quelque chose, forcément, on a plus de temps, on a plus de d'envie de porter sa passion. Mmh. Mmh. Bref, je sais pas pourquoi on parle de ça. Je sais pas si c'est la bière ou
quelle bière.
Donc Élude. Pourquoi Élude d'abord, d'ailleurs?
Eh ben, Élude, j'ai répondu à la question tout à l'heure, en fait. Je crois
pour
que
j'ai anticipé
la question.
Ludique.
Non, je crois que par rapport à. Non, bah, en fait, c'est vrai qu'on a pas mal réfléchi à un nom.
Galéré, même.
Oh, on a même galéré, ouais, c'est vrai que.
Et pourquoi 2D?
Et pourquoi pas?
Il n'y a pas une petite histoire croustillante sous ce nom?
Non, même pas. Non, je me rappelle, ça a pris du temps parce qu'on a eu pas mal d'échanges, que ce soit le week-end et tout ça, parce qu'à l'époque, on va dire sur la réflexion du nom, on était quand même nombreux. À l'époque,
oui.
Sur la réflexion du nom. Et il y a eu, en fait, ça nous a pris un temps fou à essayer à cogiter quel nom était le plus adapté, etc. On a laissé tomber et c'est après, nous, on est parti dans des délires avec Lude.
Voilà.
Et on est arrivé à Élude.
Pourquoi 2D? Je crois qu'il y avait une. On avait regardé Élude avec un seul D. Il y avait une boîte qui n'avait rien à voir avec le jeu.
Un truc
qui existait comme
ouais.
Ça. Ouais, je sais plus. Donc,
ça permettait
2D,
quand même d'avoir
sympa.
Le nom de domaine et de pouvoir déposer le.
Oui. Et puis ça nous allait bien après. Donc, donc voilà.
Alors, du coup, on se retrouve au final du fait qu'il y a 2D. On nous dit Éludo. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a un O après le D. Donc. Non, c'est pas Éludo, c'est Élude. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est quand même, enfin, sur les badges et tout ça, souvent, enfin même sur les polos, on a fait des beaux polos avec le logo,
ça,
bien sûr, qui ont été réalisés d'ailleurs par Stéphane Escapa. Voilà, qu'on remercie d'ailleurs pour ça.
De la cale,
oui, tout à fait, qui est maintenant quand même quelqu'un de bien placé en termes d'illustration.
Banquise,
tout à fait. Voilà, mais bon, voilà, du coup, Élude, c'est parti, il n'y a pas d'histoire croustillante là-dessus.
Je suis déçu. Ouais. Et toi, Stéphane,
mais je pense que qu'à un moment, Didier a essayé de manipuler, il a essayé de rajouter un deuxième D à la fin pour imposer le Didier à la fin, le D de Didier. Ça, mais je pense, voilà. Mais après, ça, c'est dans les légendes, quoi.
Et toi, Stéphane, pourquoi le grand Coldron? Ça renvoie à quoi?
Alors, ben, ça renvoie au chaudron, évidemment.
Ouais.
Donc, c'était la première volonté, c'était qu'on voulait faire apparaître un chaudron dans le logo, puisqu'on aime les chaudrons.
La potion magique.
Voilà, j'aime cuisiner chez moi à la marmite et au chaudron.
Ouais.
Et il y a aussi le côté folklorique avec le chaudron celtique, le chaudron de sang, etc.
Et pourquoi un nom à moitié français, à moitié anglo-saxon?
Alors c'est en fait le nom est 100% anglo-saxon, c'est juste que Grand,
yeah, Grand, aussi, Grand
comme Grand Mother ou Grand Machin. Grand. Mais à la base on avait escompté s'appeler Plaque Coldron.
Ouais.
Et alors aucune société s'appelait comme ça, donc théoriquement le nom était disponible, mais c'est aussi le nom originel de Taram et le chaudron magique.
Ah.
Et on n'avait pas envie de se battre avec Disney. Du coup, on est parti sur Grand Coldron. Et ça nous va très bien, puisque ça fait aussi, et ça nous fait placer un petit mot français aussi dans l'eau par chauvinisme pur et dur.
Oh, bah, s'il connaît Taram, il est vieux.
Et lui aussi.
Lui aussi.
On revient sur vous. Ambiance et jeu, Élude, d'autres cordes à votre arc?
Ben, d'autres cordes à notre arc, on va dire, ben, déjà ambiance et jeu, Élude, c'est pas mal. Après,
ouais,
on a ben,
ouais.
Forcément la cale, où bah, on est quand même moins disponible à l'heure actuelle, mais voilà, tout ce qui est création de jeux de société, etc.
Mais on y revient doucement. C'est vrai que
ça nous manque.
Toutes les activités qu'on met en place, on n'a pas le temps de créer. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a envie, on teste des petites choses. Donc voilà, l'envie nous manque pas, le temps beaucoup et l'esprit aussi, hein, vraiment de s'y coller, etc. Mais bon, hein, je désespère pas qu'on arrive à relancer quelques protos d'ici là, que ça soit ensemble avec d'autres personnes. Enfin, il y a plein de gens qui ont envie de créer plein de choses, donc c'est cool.
Vous travaillez ensemble
sur les protos?
Oui.
On va dire que de temps en temps, quand on a quelques idées, bah forcément on en discute, on teste. Bah, un des derniers protos que j'ai testé, d'ailleurs, bah, j'ai fait tester à Didier, il m'a fait des retours dessus. En fait, on l'a fait évoluer même ensemble, quoi. Ça pourrait presque être, on pourrait presque être considéré, parce qu'au début, comme deux auteurs, co-auteurs, oui. Après, voilà, ça peut être avec Didier comme des gens proches après un moment qui ont une idée, donc tu bosses sur le jeu, etc. Mais c'est vrai qu'on bosse pas, en fait, même si on a pas mal d'idées, on va dire, de jeux, de développement de jeux avec Didier, pas mal de mécaniques qu'on voudrait pousser, etc. Même Didier a eu quelques idées sympas, mais on n'en parlera pas.
On peut pas se les faire voler.
Voilà, c'est ça. Oh non, on nous volera pas. Enfin bref. Mais c'est vrai que bah, je pense que si on arrive même à la rigueur à trouver nos temps de création de jeux, des moments où on arrive à se poser pour développer des jeux, c'est presque par rapport à tous les projets pro qu'on a en parallèle, c'est presque notre temps de détente, je pense, à un moment, se poser autour d'un jeu, discuter, réfléchir en mécanique et tout ça. Voilà. Mais on essaie de trouver du temps pour ça, quoi.
Et ton jeu, c'est Down, tu l'as fait tout seul?
Celui de Sit Down, ouais. Oui, tout à fait. En fait, oui, je l'ai créé tout seul. Mais c'est en fait un des premiers. Allez, si je retire tous les jeux de société que j'ai pu essayer de créer étant plus jeune, à l'époque de l'adolescence et tout ça, parce que comme je disais, j'étais surtout dans la création de jeux de rôle, voilà, de mécaniques de jeux de rôle, d'univers de jeux de rôle, etc. C'est vraiment le premier jeu de société que j'ai voulu créer et pousser jusqu'au bout, quoi. Sachant que en fait, je me suis lancé dans la création de ce jeu-là. Parce que comme je passais la formation donc de ludothécaire auprès de FM2J, donc au Ludopole, une des épreuves, c'était de développer un jeu, en fait, de créer un jeu de société ou un jouet. Donc forcément, je me suis lancé dans la création d'un jeu avant de passer cette formation-là. Et donc j'ai développé ce jeu-là, c'est là que j'ai rencontré la CAL, je suis allé sur Octogone, sur différents festivals de la région, jusqu'à ce que je rencontre donc Sit Down sur le festival de Valence il y a 2 ans, quoi. Voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai développé un autre jeu dans le cadre de la formation de ludothécaire, puisqu'on m'a demandé de partir de zéro, quoi, au niveau du développement. Et voilà. Mais voilà, c'est vrai que ben, mon premier jeu, donc Troops, donc a été signé sur le Festival de Valence, à force de faire le tour.
Le principe,
alors en fait, chaque joueur incarne une race extraterrestre qui, en fait, va aller explorer. En fait, il va falloir quitter le système planétaire sur lequel il se situe, et il va falloir aller explorer les différentes planètes, entre autres les planètes habitées par les autres joueurs, pour aller retrouver les vestiges de vaisseaux qui avaient servi à coloniser ce système de planètes il y a plusieurs milliers d'années. Et quitter ce système de planète, quoi. Voilà. Donc en fait, il va falloir aller ça va se jouer sur un système de au niveau des clans, avec des pions réversibles, où on va programmer des déplacements des personnages de notre clan qui vont aller soit sur les planètes pour explorer, donc trouver les vestiges, donc c'est tous ces vaisseaux là et après on a un côté agressif, c'est-à-dire qu'on a d'un côté ce côté éclaireur et d'un autre côté ce côté combattant, où on va aller sur les planètes pour piller dès qu'il y a une ressource qui est dévoilée, etc. Voilà.
C'est un 3X. Explore,
oui.
Exterminate.
Oui, c'est un truc dans ce style-là. Ouais.
Expand.
Tout à fait. Ouais. Voilà.
Parfait. Écoute, très bien.
Je te ferai tester à l'occasion.
Et Troops, si... alors.
Et Troops, oui.
Troops.
Qu'est-ce donc?
Non, mais c'est le nom. Alors, définitif,
c'est,
ou...
Non, c'est pas le nom définitif. C'est, en fait, c'est toujours le nom que j'avais trouvé à l'époque. Voilà. Donc après, le nom définitif, il n'y a pas encore de nom définitif. Il y a quelques pistes. Voilà. Après, le jeu est toujours en phase de test chez Sit Down, quoi. Ils ont eu pas mal de développement de jeux dernièrement, dont entre autres Echo, C'est-à-dire que Echo, du coup, a été développé. En fait, j'avais signé mon contrat avant, et donc la période où Echo était sorti, Troops devait sortir. Mais au final, vu que Echo était pas mal avancé, c'est un jeu de Kermarek, voilà, qui a fait Krabs aussi. Enfin, de toute façon, tu dois connaître.
Il a eu un prix au CNJ, en fait, sur.
Ouais.
Un, je crois.
Il me semble. Ouais. Et donc, vu que Echo était opérationnel, voilà, que le jeu tournait très bien et ça, qu'il y avait plus de travail à faire dessus,
ils, bah, forcément,
ils l'ont fait passer avant. Et bah, là, j'attends, comment on dit, j'attends mon tour, quoi. J'attends mon tour. Voilà. Après, je sais pas où ça en est. En fait, c'est en phase de test à l'heure actuelle, mais il y a toujours des pistes sur la thématique, des pistes sur le nom, mais on n'est pas encore dans le vif du travail de développement dedans, quoi. Alors théoriquement, il est prévu pour début 2017, aux dernières nouvelles que j'ai eues, qui est une période où les boutiques justement ont besoin de jeux, parce que c'est une période de creux, parce que essentiellement il y a tout qui sort sur la période des scènes, quoi. Voilà. Donc et après j'attends voir ce que ça va donner, quoi.
D'accord. Très bien.
Petit à petit. Après, on a d'autres, enfin, j'ai d'autres jeux et on a d'autres pistes de développement de jeux, que ce soit avec Didier ou avec d'autres collègues auteurs. Voilà.
La cale.
Mais pas que la cale, hein, en fait. Hein. Il y a pas mal de.
Je veux dire, il y a des auteurs qui adhèrent pas à la cale.
Bah après, la cale, personne n'est obligé d'adhérer, hein, en fait. Comme, enfin, t'as déjà dû discuter justement.
Oui,
avec, oui. Avec Florent. Et voilà, c'est plus le groupe de potes, et il n'y a pas forcément l'obligation d'adhérer. Si les gens ont envie de suivre la façon de fonctionner de la cale, ce côté potes qui créent leur jeu et tout ça, bon, bah, voilà.
Mais c'est un peu impressionnant de savoir qu'il y a déjà une trentaine d'auteurs qui sont à la cale et qu'il y a encore d'autres auteurs qui gravitent autour, mais qui sont dans l'ombre.
Ouais,
quoi, en fait.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a vraiment une émulation et un dynamisme fort, quoi.
Ouais, ben je le vois, moi, en fait, enfin, même Didier le voit à ce niveau-là, qu'en fait, quand on fait des animations ou qu'on doit organiser des journées jeux, ou même ben, dans le cadre des rencontres ludiques, quand on voit le nombre d'auteurs déjà qui font partie de la cale, donc il y en a bien une trentaine, mais tous ceux qui gravitent autour, en fait, les listings qu'on a sur les différents auteurs, à un moment, qui veulent qu'on les contacte quand on fait des animations, qui veulent venir présenter leurs protos, c'est impressionnant. C'est-à-dire que rien que sur le secteur sur le secteur du Grand Lyon, c'est impressionnant le nombre de créatifs qu'il peut y avoir, quoi. Ça m'étonne pas qu'il y ait autant de jeux qui sortent à l'heure actuelle, quoi. C'est impressionnant.
Très bien. Et tout à l'heure, tu parlais du printemps du jeu. Du printemps du jeu.
Ouais, tout à fait. Le printemps du jeu. Jeu J-E ou J-E-U ?
Je ne sais pas.
Alors, le printemps du jeu, en fait, c'est ben, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on échangeait sur le sujet, sur les rencontres ludiques. Le printemps du jeu, en fait, les rencontres ludiques, c'est un partenariat donc qui a été mis en place par Ambiance et Jeux, donc avec la MJC Montchat, pour pouvoir réaliser les rencontres ludiques au sein de la MJC Montchat. Sauf que dans l'idée, c'était de pas simplement s'arrêter à un festival, mais avec la MJC, ils ont voulu qu'on développe divers événements autour des rencontres ludiques et sur la thématique du jeu. Donc on a mis en place quatre dates clés sur lesquelles on développe ces événements. Alors les rencontres ludiques, c'est porté par Ambiance et Jeux, mais nous, par rapport à notre statut au niveau des ludes et tout ça, c'est vrai qu'on est plus là en soutien même d'Ambiance et Jeux, et on est sur le développement des autres événements aussi, quoi. Voilà. Donc ces événements qui sont, en fait, on a une première journée qui est justement une journée publique Yellow qu'on accueille sur la MJC Montchat, qui a lieu le 22 mai. Voilà, où il y aura des tournois sur Star Realms. J'essaie de travailler mon anglais. Star Realms,
c'est ça.
Joueurs de flûte et sabordage aussi. Il y aura un tournoi sabordage. Donc le 22 mai. Après le 31 mai, il y a ce qu'on appelle la Journée mondiale du jeu. C'est un événement qui est porté essentiellement par l'ALF et les ludothèques du monde. Voilà, donc enfin, tout le monde ne fait pas forcément un événement le 31 mai.
Et l'ALF, c'est l'association des ludothèques de France.
Un truc comme ça, ouais. Et donc ben, on a mis en place pareil un événement donc sur la date du 31 mai qui va être en plus en soirée de 18h jusqu'à à peu près minuit où il va y avoir ben, un petit peu de jeux sous toutes ses formes, c'est-à-dire des auteurs, des éditeurs, du jeu en bois, du rétro gaming, du jeu de rôle, etc. Enfin voilà, un petit même du jeu traditionnel quoi, hein, comme du backgammon, du bridge. Voilà. Après, on a les rencontres ludiques, donc qui sont la troisième date clé du printemps du jeu, qui sont sur le 11 et 12 juin, donc rencontres ludiques avec bah, tout ce qui en découle. Et la dernière date, qui est le 9 juillet, qui s'appelle Mon chat joue, et en fait, qui est le renouvellement d'un événement que j'avais mis en place l'an dernier au niveau de la ludothèque, sur laquelle Ambiance et Jeux étaient partenaires d'ailleurs. Mon chat joue, c'est un peu le même principe que la fête du jeu, c'est-à-dire que on va vraiment faire découvrir du jeu sous toutes ses formes à tous les publics quoi.
Dans la rue ?
Alors pas dans la rue cette année, toujours au sein de la MJC. En fait, les quatre événements ont lieu au sein de la MJC. On a quand même une cour assez spacieuse de je sais plus combien de mètres carrés. On a bossé sur les plans, pourtant on devrait s'en rappeler. Mais donc il y aura une partie en extérieur. L'an dernier par contre on avait fait une demi-journée qui était en extérieur sur le parc Bazin avec des espaces aménagés pour les enfants, des tables avec du jeu de société, du jeu en bois, etc. Et après on avait une demi-journée de rencontres avec des auteurs, avec du rétro gaming, en fait du jeu de société qui était par contre à l'intérieur de la MJC. Là on a voulu tout regrouper sous une même date, donc le 9 juillet. Ça démarre vers 10h le matin jusqu'à minuit, en fait c'est le final parce que l'idée c'est de faire un barbecue à la fin et tout, voilà, truc à la cool quoi.
Ouais, bien.
Voilà.
Bien, bien. Bah, très bien. Très, très bien. Faut que je note les dates. Surtout que le 11 et le 12, normalement, on devrait avoir les enfants.
Je te laisse le dossier de presse.
Merci. Merci.
Avec les belles illustrations d'un caliste aussi, Jean-Marc.
Et on retrouve les jeux de la cale. Tout ça, les copains, tout ça.
Il y a un peu de tout.
Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Très bien, bah merci de nous avoir présenté à la fois Ambiance et Jeux et à la fois Elude. Bonne chance au Grand Cold Run.
Merci.
J'ai oublié, je reviens sur toi Stéphane, ouais. Une minute. Après, là vous allez bientôt finir, donc enfin vous avez fini normalement.
Oui, on est sur le rush final. Ouais.
C'est quoi après ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors là on est sur plusieurs concepts. Donc on a une autre adaptation de jeu de société qui est en prototypage pour l'instant.
Trout, il parle de Trout.
C'était ça.
Clin d'œil.
Bon, pour l'instant, bon, on ne peut pas en parler, on n'a pas les droits ou quoi. On est vraiment en phase de prototype pour essayer de voir ce qu'on peut faire dessus. Et on a donc un autre projet.
C'est toujours... c'est quel genre de...
Ça reste une adaptation de jeu de société figurine avec des compagnies. Ouais.
Monopoly.
Oui, il y a des figurines.
Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations de Monopoly en jeux vidéo qui existent déjà.
Mais oui, je pense que
si
c'est pas
le meilleur
qui...
plan. Ouais.
Et ben,
je pense que ça se vend bien.
Ouais, c'est ça.
Enfin, ça existe déjà. Donc, ouais. C'est pas, moi, ça m'intéresse.
Malheureusement, ça doit bien se vendre.
Et on a aussi donc un autre projet.
Marrakech.
Ouais.
Fête Marrakech.
Un autre projet donc dans notre univers, donc dans l'univers celtique dont j'ai parlé, mais qui n'est pas le jeu de rôle. Qui a un autre projet qui va être multi-support avec sûrement un peu de réalité virtuelle dedans aussi, et il y aura un chaudron dedans.
Et dernière question, qu'est-ce que tu penses du transmédia chez Esteren, les ombres d'Esteren?
Je connais pas.
Ok.
Les ombres d'Esteren, jeu de rôle.
Jeu de rôle.
D'accord.
Pourtant, je suis en retard quand même sur l'actualité sur le jeu de rôle. Mais...
Avec en programmation, enfin en développement, un jeu de point and click.
D'accord.
Avec des symphonies, avec un grand orchestre d'opéra. Ils font un peu de tout et ils se font plaisir sur plein de choses. Je sais pas à quel point ils développent leur univers, mais ils essayent de vraiment, tu vois, vraiment. Là, pour le coup, c'est vraiment du transmédia, mais même plus loin que le simple jeu vidéo.
D'accord.
Donc voilà. Bon. Merci beaucoup.
De rien.
Et puis merci, on va passer à la dernière partie de notre podcast. Je vais vous demander de parler de jeux de société. Jeux de société ou jeux de rôle, si tu veux, Stéphane. Ou,
oh non,
ou jeux de figurines, comme tu veux.
Sale.
Oh non, pas le jeu. Non.
C'est qui veut commencer?
Au hasard, Didier.
Didier.
Oui.
Volontaire désigné d'office.
Dis-moi.
Alors, bah, parce que je vous avais fait un petit mail en vous disant si vous avez un jeu que vous aimez bien, le jeu que vous, dont, auquel vous jouez actuellement, le jeu, un jeu que vous, dont vous voulez parler. Tu l'as lu ?
Oui. Oui, oui.
Parfait.
Bah, là, le premier jeu qui me vient en tête, ça va être Patchwork. On en a parlé.
Ah, bah, vas-y. Voilà, alors, parce qu'on en a déjà parlé, mais tu peux y aller.
Eh ben, super découverte. Jeu à deux, donc clairement patchwork qu'on doit construire donc avec des pièces de tissu optimisées un maximum avec des formes diverses et variées notre plateau de jeu. Mais pour cela, va falloir récupérer des pièces et forcément vos choix pour récupérer les pièces vont impliquer le choix qui va en découler pour votre adversaire. Donc déjà, il va y avoir quel piège je vais prendre. Si je prends cette pièce-là, forcément, mon adversaire va pouvoir prendre telle pièce. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Vaut peut-être mieux que je prenne cette pièce-là. Donc déjà, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre sur le jeu. Après, il y a une question d'optimisation, de timing, de... Les jeux que j'adore, en fait, hein, ça s'approche un peu de l'abstrait, en fait, mine de rien, sur... tout ce qui est ce que j'adore dans les jeux abstraits, c'est le timing. Là, il y a vraiment un timing. Quand est-ce que je prends la pièce, qu'est-ce que je laisse à mon adversaire. Et ça marche vraiment bien avec tous les publics. Donc c'est ça déjà pour moi dans ma ludothèque. Maintenant, c'est vrai que j'aime les gros jeux, mais j'aime de plus en plus. Une des premières choses d'un bon jeu, c'est qu'il soit accessible. Et clairement, celui-là, il est accessible pour tout le monde. On peut y jouer à plusieurs niveaux. Et ça, j'adore ça dans un jeu, quoi. Voilà. Sinon, d'autres jeux comme ça qui me viennent à l'esprit. Bah, il y a Codenames qui vient de sortir, enfin qui va sortir chez Yellow et qui est juste un super jeu d'association.
Ah, alors vas-y, parce que celui-là, tout le monde dit que, enfin, j'ai l'impression que c'est le jeu auquel il faut jouer.
Bah après, c'est clairement un jeu, si vous aimez, alors pour ceux qui ont un peu l'habitude des jeux de société, qui connaissent par exemple des jeux comme Link, qui sont vraiment des jeux d'association d'idées, bah là, ça va être dans le même esprit, sauf que on est clairement deux équipes et on va essayer de faire deviner, donc il y a des maîtres de jeu dans chaque équipe qui vont essayer de faire deviner des mots à leurs, voilà, à leurs petits camarades en trouvant un mot qui peut essayer de trouver un mot le plus large pour faire découvrir un maximum de mots. Et donc du coup, il va y avoir une certaine prise de risque à dire, ben voilà, est-ce que je fais découvrir deux mots, je suis sûr de les faire découvrir à mes copains, quoi. Ou alors est-ce que je tente de faire voilà, de faire découvrir quatre mots dans le même coup, quoi, avec un seul mot. On voit les mots, il y a des mots qui sont face visible, hein, que tout le monde a accès, mais il faut faire attention parce qu'il y a des mots qui peuvent être éliminatoires, etc. Et donc c'est clairement un jeu d'association d'idées qui est, enfin voilà, que je trouve vraiment excellent. Voilà. Dans les jeux que j'aime actuellement, hein, qui viennent de sortir.
Très bien. Alors, Codename, c'est chez Yellow.
Yellow.
Ah oui, VF, c'est là. Donc, c'est 15,90€ chez Philibert. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs. Enfin, c'est la version anglaise qui est à 16€, mais ça doit pas être beaucoup plus cher. En plus, c'est ce que j'apprécie chez Yellow, c'est qu'ils font. On parlait tout à l'heure des petites boîtes de la collection à 12€.
Minigames.
Et je trouve que c'est super bien trouvé. Et j'aime aussi beaucoup les jeux pour les enfants. Je trouve que, enfin, c'est pas eux en direct qu'ils font ça, c'est Purple Brain qui est l'éditeur. Mais c'est vraiment, ils ont une collection
des jeux.
C'est une collection qui me plaît vraiment beaucoup et même qui est globalement très bonne. Donc c'est vraiment à suivre.
Mais en parlant de Codename, j'ai échangé avec Timothée et Virginie de Yellow qui ont eu un travail énorme à faire en fait de traduction sur les mots, parce que en fait forcément faut qu'ils soient adapté pour trouver un maximum de combinaisons et trouver un équilibre entre la langue d'origine et la langue française. Donc, voilà.
Et Patchwork, chez Philibert, c'est pareil, 17€, donc pas très cher, moins 30 minutes. Et on peut enchaîner deux parties, il n'y a pas de souci, pour deux jours uniquement et avec une règle en français. Florent ?
Oui, c'est moi.
À quoi tu joues?
Moi, à quoi je joue?
World
of
Warcraft.
On va dire que, non, même pas. Oh, j'ai essayé il y a fort longtemps, mais après, voilà, question de temps, comme on dit.
Tu avais une vie et.
C'est ça.
La prise dessus.
Ouais. Après, on va dire, dans le type de jeu dont je suis le plus fan, on va dire que c'est plus des jeux du style Descent, Zombicide, enfin, tous ces jeux très thématisés, très, on va dire, à tendance un peu jeu de rôle. Mmh. Encore en disant ça, je vais me faire tirer les pierres dessus, mais bon. Sinon, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est vrai que j'ai pas forcément, ou je prends pas forcément trop le temps de jouer. Et dans les derniers jeux que j'ai découverts, où j'étais assez convaincu, donc je veux dire qu'il y a Quadropolis de Days of Wonder, qui est vraiment à découvrir, qui m'a surpris parce que, bah, justement, pour revenir à Five Traps, qui faisait vraiment très, enfin, plus gros joueur, je trouve, pour une gamme Days of Wonder, Quadropolis revient plus à un fonctionnement ou un type de jeu accessible à tous les publics, quoi. Puis il n'y a pas de perte de temps entre chaque joueur, voilà, l'effet portable entre chaque moment où chacun joue, on n'a pas le temps. Et dans le gros, dans la thématique, c'est un jeu, on va dire, thématique de construction où chacun va construire un quartier en quelque sorte. Il va falloir combiner différents bâtiments ensemble pour scorer, pour marquer le plus de points possible. Voilà.
Donc familial, plutôt léger.
Oui, plutôt familial plus si on veut pousser un peu.
Et moyen alors, pas trop léger.
Pas trop léger.
Ouais, un peu.
Ouais,
et...
Tout à fait.
D'accord. C'est très coloré, par contre.
Oui. Enfin, ouais, mais j'aime bien. Ça fait assez accessible, quoi. Ça fait pas jeu trop sérieux, donc le côté coloré. Voilà. Après, en deuxième jeu sur lequel j'ai bien accroché dernièrement.
Alors, excuse-moi. Chez notre partenaire Philibert, c'est à 40,50€. C'est normal parce que c'est un jeu Days of Wonder. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et ça se joue en 30 minutes à 1 heure, donc c'est assez rapide.
Ouais, ça marche bien. C'est cool. Et comme je disais, en deuxième jeu que j'ai découvert dernièrement, sur lequel j'ai bien accroché, bon, c'est pas un jeu forcément pour moi parce que je suis pas très, pas toujours très vif, mais c'est le Gobit, comment ça s'appelle?
Ah, Gobit.
Gobit, ouais, mais une nouvelle version de Gobit.
Angry Birds,
voilà, tout à
non,
fait.
Non,
si, carrément. C'est une autre mécanique, ça a été bien revisité parce que c'est pas un copier-coller de la mécanique du Gobit classique. Et je suis pas forcément fan de ces jeux-là, mais j'ai trouvé celui-là encore plus accessible, sans parler de la thématique, hein, mais j'ai trouvé plus accessible et très sympa, quoi. Voilà.
Alors qu'est-ce qui change?
La mécanique dedans, en fait, la façon de jouer, quoi. Il y a les actions qui vont être réalisées en fonction des cartes. C'est vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça différent. Après, pour les termes techniques, il faut demander à Didier.
Mais en fait, clairement, le Gobit, donc pour ceux qui connaissent pas Gobit, donc c'est un jeu d'observation et de réflexe, hein. C'est la chaîne alimentaire, donc vous avez des moustiques, des caméléons, des serpents, des gorilles, voilà, et donc chacun, je vais pas vous faire tout le jeu.
Et donc pierre feuille ciseau.
Voilà, mais à la couleur en fait, un serpent va dégommer un caméléon, mais un serpent rouge dégommera un caméléon rouge. Et en fait, ce qui va changer dans le Gobit Angry Birds, c'est une question de majorité. Donc vous avez les oiseaux, les cochons, et en gros les oiseaux quand ils sont majoritaires, il dégomme s'il y a un cochon tout seul, en fait. Il y a un cochon contre deux oiseaux. Bah, les deux personnes qui ont des oiseaux peuvent aller dégommer le cochon et nous, on doit se protéger avec le cochon. Donc, c'est plus une question de chaîne alimentaire. Ça va être une question de majorité et en fait, ça change vraiment le jeu. Et je pense que Morning Player a pas mal joué là-dessus.
Ah, c'est chez Morning Player?
Ouais, ah, tout ouais. À fait. Tout à fait. Bah, en fait, Gobit était fait par Old Chap, je veux pas dire de bêtises. Mmh. Et après, donc, le Gobit a été fait par Morning Player, le même jeu. Enfin, ils ont changé quelques petites règles. Parce que dans le Gobit de Old Chap, les gorilles avaient une couleur, alors que là, ils en ont plus dans le Gobit de Morning.
Pourquoi?
Donc, on tape sur tout.
D'accord. Okay.
Voilà, le gorille dégomme. Dès qu'il voit un truc, il dégomme. Il n'a pas besoin que ça soit sa même couleur.
Donc, il y en a moins?
Il y a 3 gorilles.
Ok.
Voilà, donc pareil. Ouais, pareil, okay. Mais il dégomme bien, donc ça dynamise encore plus le jeu.
Ah oui.
Et du coup, ils ont fait Angry Birds qui va sortir incessamment sous peu, qu'on a pu tester à Toulouse justement.
Ouais.
Et qui est vraiment une mécanique différente, et c'est cool parce que c'est vraiment pas le même jeu. Même quand on a joué pas mal de fois à Gobit, on est assez décontenancé quand on joue à Angry Birds. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment un autre jeu. Enfin, ça reste de réflexe, hein, y a pas de souci. Mais voilà, c'est plutôt cool.
Alors,
Florent là-dessus.
Puis ils ont fait un système assez sympa pour faire vivre le jeu aussi, un système de bracelet aussi d'affrontement, c'est-à-dire quand on fait une compétition Gobit, on va avoir des classements comme les ceintures au judo ou au karaté et tout ça, des bracelets où après on pourra défier le gars du niveau au-dessus. Si on gagne, on peut lui faucher son bracelet, on monte les échelons comme ça. Ça fait une petite communauté autour du jeu Gobit qui est assez sympa.
Mais ça, c'est bien trouvé, parce que quand t'as l'habitude et la dextérité et que tu commences à voir la mécanique, t'écrases normalement tout le monde. Donc le fait d'avoir des gens qui sont du même niveau, c'est bien sympa. Alors nous, on a un problème, c'est une table en verre. Donc quand on a joué à Gobit comme ça, sur cette table, on était là, avec juste le doigt, tu sais, on posait le doigt dessus, on tapait pas. Mais bon, c'est un jeu extraordinaire, Gobit. Et puis en plus, ça coûte 12 €, ça coûte rien, ça se met dans le... Alors là, pour le coup, pour emmener en vacances, un Gobit, un sandwich, et puis on y va, quoi.
12 € chez Philibert.
Chez Philibert, tu as bien retenu.
C'est bon.
Chez Philibert. Et ça se voit plein. Et c'est très très bien Gobit, mais on vous en a déjà parlé tellement de fois que, à mon avis, vous devez savoir. Stéphane.
Ouais. Alors, un jeu. Moi, je suis plus en jeu société. Je vais avoir tendance à préférer les jeux qui font marcher l'imagination. Donc là, mon coup de cœur l'année dernière, c'était Mysterium, que j'ai même réussi à y faire jouer mes parents à Noël. Ils en ont redemandé. Donc c'est pas fréquent. Donc c'est que le jeu il tourne bien. Et sinon, un de mes jeux favoris, on va dire, à quel je joue régulièrement quand je pars en vacances, c'est celui-là que j'amène, c'est Il était une fois. Et c'est assez amusant, ça permet aussi de voir un peu la personnalité des gens, personnalité cachée des gens avec qui on a l'habitude de fréquenter, et c'est assez amusant.
Tu peux nous le pitcher?
Ouais, alors Il était une fois, il y a que des cartes dedans, des cartes illustrées très, très joli. Et en fait, le but du jeu, c'est de raconter une histoire. Et chaque joueur a dans sa main une carte fin, qui est une fin du type il vécure heureux et il y aura beaucoup d'enfants. Mais bon, il y a plein de cartes fin différentes. Et chaque joueur a aussi donc une multitude de cartes d'événements avec des personnages, des lieux, des environnements, des émotions, etc. Et le but, c'est de raconter une histoire en dépensant ses cartes, sachant que quand on n'a plus de cartes, il faut finir avec sa propre fin. Mais chaque joueur va interrompre l'histoire et essayer de tirer ce qui se passe dans l'histoire vers sa propre fin, sachant qu'il faut que ça reste un peu cohérent avec le reste, et c'est une seule histoire qui est partagée par tout le monde. Donc chaque joueur va en fait modifier les événements, faire mourir un personnage qui avait l'air indispensable à un autre parce que ça l'arrange pour avoir sa propre fin, etc. Et on se retrouve assez rapidement à des situations totalement impossibles avec des histoires qui partent dans tous les sens, et c'est vraiment très amusant.
Alors ça, c'était un peu le travers dont je me souviens, c'était que les gens essayaient d'interrompre très très vite. Et en fin de compte, laissait pas assez développer l'histoire, et c'était un peu frustrant parce que justement, on n'arrivait pas à faire quelque chose de.
Ça demande un minimum de discipline. Après, ouais. Normalement, pour interrompre, faut avoir quand même les cartes en main qui vont bien. Donc, le plus gros problème de mon côté que j'ai eu, c'est parfois une personne n'intervenait pas de la partie parce qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour interrompre, et du coup. Il y a toujours, si on joue à beaucoup, si on joue à 4 ou 5 ou 6 personnes, il y aura toujours une qui interviendra très peu au final. Mais bon.
Ouais, sur un jeu comme ça, t'as toujours des gens qui ont beaucoup plus d'imagination, qui sont plus réactifs et plus expressifs que d'autres. C'est vrai qu'il faut vraiment que tout le monde ait à peu près le même niveau d'expression et d'imagination.
Ouais, c'est pas un jeu que tu peux sortir avec n'importe qui.
Tu peux pas jouer avec n'importe qui.
Faut connaître les personnes, effectivement.
Mais dans ce style-là, on avait bien aimé Histoire de Hobbit.
Oui.
Je vais dire Gobit, encore, mais tu vois. Histoire de Gobit, tu connais? Histoire de Hobbit chez Edge, il me semble, c'est ça?
Ouais, c'est ça, chez Edge.
Ah bah, comme on avait une question tout à l'heure sur Battle Lore, deuxième édition.
Oui.
Donc, il me semble que c'est Edge.
Oui.
Voilà. Bref.
C'est mon professeur spécialisé dans le jeu. C'est lui.
Donc, Il était une fois, c'est un très très vieux jeu. C'est un grand ancien du jeu de la troisième édition.
Je crois qu'ils sont à la troisième édition.
Ouais,
ils ont refait des boîtes là, toutes neuves, de plein de séries comme ça, Service Compris, Il était une fois.
Tous les classiques.
Camelot
aussi.
Camelot, c'est très bien, Camelot.
Ils ont refait des nouvelles boîtes en fait là récemment. Ouais.
Bah,
c'est très bien, mais c'est...
Tu veux dire c'était très bien il y a 20 ans
Non, pas 20 ans, il y a 10 ans en fait. C'est, ça reste un jeu correct, mais qui a pas forcément bien vieilli, qui est pas forcément ou qui est plus forcément d'actualité dans les façons de jouer ou dans
ça fait plus jeu de pli que c'est un jeu de pli, tout à fait. Hein. Comme Stupid, un peu comme Stupid Vautour, ou ça c'est la génération de Stupid Vautour.
À part Scotland Yard, il y a pas beaucoup de jeux qui ont bien vieilli. Hein.
Oui,
mais est-ce que Scotland Yard a bien vieilli?
Oui.
Ça marche bien, ouais. Ça marche bien encore.
Ouais, je me souviens d'une partie où ça faisait des clins d'œil dans tous les sens, ça dessinait, j'avais rien compris. Enfin, c'est peut-être moi. C'est sans doute.
Faut jouer avec des bons joueurs.
C'est ça, mais c'est ça. C'est comme il était une fois jouer avec des gens.
On t'invite à ambiancer jeu, si tu veux, quand tu veux.
Ben, avec plaisir. Je viendrai avec les enfants. Je joue qu'avec mes enfants maintenant. Il était une fois, c'est un jeu où il faut pas jouer en compétitif, mais plutôt en collaboratif. Enfin, il faut essayer de se raconter. Il faut avoir envie de raconter une histoire à partir de 10 ans, 30 minutes, 3-5 joueurs. Et puis, c'est pas très cher aussi, c'est 18€. Donc, voilà. Grand ancien du jeu de société. Est-ce que vous avez un autre jeu à... Parce que moi, vous m'avez... j'ai cherché très longtemps ce que je pouvais pitcher. Et en fait, la diligence de Colt Express, c'est effectivement quelque chose que j'ai acheté à Essen dernier. J'ai mis très longtemps à y jouer. Et en fait, effectivement, nous, c'est Colt Express, c'est le jeu qui fédère en fait toutes les générations. Mmh. Et ma mère a joué à Colt Express, c'est alléluia quoi. Et la diligence, donc il y a une diligence qui se place au niveau de la locomotive et qui va reculer en fait au fur et à mesure de la partie. Ça rajoute quelques cartes, ça rajoute aussi plus de dynamisme parce qu'on peut passer sur la diligence, récupère un otage et retourner dans le train. L'otage, lui, est-ce que tu l'as déjà joué à Stéphane à Colt Express? Alors je vais reprendre depuis le début. Colt Express, c'est un jeu à programmation cachée. Ouais. Sauf que le truc, c'est que chacun va, enfin, la programmation n'est pas forcément cachée. La programmation, elle se fait en tournant autour de la table. Je vais faire mon action, tu vas la faire. Florent va la faire, Didier va la faire. Et après, ça sera à moi. Je vais passer une carte face cachée, on va faire encore un tour de table et puis après peut-être qu'on va faire un tour en sens inverse, etc., etc. Et après on va dépiler. Et donc ma première action elle est connue, la deuxième action n'est pas connue et déjà ça donne un aléatoire. Et puis après comme Didier a pu faire deux actions puisqu'il était le dernier et le premier joueur du dernier tour, il a pu faire des actions que moi je n'ai pas pu faire. Bref, c'est Colt Express, donc on est des cow-boys, on va détrousser des gens dans un train, et là il y a une diligence qui est à côté de nous, on va pouvoir aller chercher des otages, on va pouvoir aussi avoir un peu plus de dynamisme parce qu'on se déplace sur le train, dans le train et sur le train. C'est un train en 3D. Et là c'est le truc extraordinaire dans ce jeu, c'est ce train qui est au milieu de la table et sur lequel avec son petit meeple en bois, le fameux meeple, on peut monter sur le toit, se déplacer, on va pouvoir aussi sauter sur la diligence. Donc il y a aussi cette chose là plus des chevaux qu'on va pouvoir emprunter et qui parfois ne seront plus là parce qu'on va se dire tiens, les chevaux, on en enlève à un certain moment. Donc on se retrouve vraiment dans un braquage de train où on va se tirer dessus, où on va détrousser les voyageurs, où le shérif va essayer de nous arrêter, où on va se faire des sales coups. C'est juste, enfin tu vois, tu parlais de narration avec c'était une fois, la narration elle est toujours là parce qu'en fin de compte tu joues pas à Colt Express. Si vraiment t'es un psychorigide et que tu veux gagner, tu joues pas à Colt Express. Parce qu'il va toujours y avoir un moment où il y a quelque chose que t'as pas prévu, tu vas te prendre un coup de poing, tu vas te retrouver sur un autre wagon, le shérif va te faire descendre, enfin va te faire remonter, ça va perturber toute ta programmation. Ouais. Donc tu le fais pas parce que sinon tu t'en es malade. Ouais, mais par contre, pour te raconter une histoire et raconter le déroulement du truc, c'est extraordinaire. Et ça se joue avec des gens, des enfants de 7-8 ans. Qui vont pas forcément faire les bons choix, mais c'est pas grave parce qu'ils vont apprendre. Et puis t'as mis que tu voulais voler quelque chose, mais il y a rien à voler dans ton wagon. Puis t'as dit que tu voulais donner un coup de poing, mais il y a personne à qui donner un coup de poing. Puis voilà quoi. Alors ça fait encore plus de chaos dans le chaos, mais c'est vachement bien. Ouais. Et la diligence, c'est l'extension, on en parlait tout à l'heure, qui rajoute effectivement quelque chose parce que ça dénature pas le jeu de base, ça reste quelque chose qui est aussi pur que le jeu de base avec ses déplacements, avec les mêmes mécanismes de cartes. Ça rajoute le cheval, cette possibilité de prendre le cheval et de remonter à côté du train. Donc tu vois, on se retrouve encore plus dans le western spaghetti, ouais, quand on saute sur le cheval et qu'on avance sur le train et puis qu'on saute dans la diligence, saute de la diligence au train. Enfin, c'est bien.
Ouais, ben en fait, pour reprendre tout à l'heure le principe des extensions, enfin ce qu'on disait tout à l'heure sur les extensions, c'est vrai que les extensions, souvent, c'est plus du fan service, comme on dit, pour faire plaisir, pour dire tiens, on sort un nouveau truc, ça va relancer un peu l'intérêt sur le jeu, ça va booster les ventes accessoirement. Tandis que Colt Express, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si il y avait le jeu de base qui avait été créé, c'est comme si c'était un squelette et qu'on a retiré même éventuellement certaines parties, et petit à petit toutes les extensions se greffent dessus et complètent le jeu, quoi. C'est vraiment le complément du jeu, quoi. C'est pas juste une extension, en fait, rien que la première extension, je la trouve même indispensable pour moi, pour prendre du plaisir dans le jeu, quoi. Même si le jeu de base j'aime beaucoup, mais avec cette extension, il y a vraiment, ça ajoute un plus qui fait que le jeu me plaît.
Voilà. Après, c'est complètement unique, hein. Tu gagnes, tu perds.
Ouais, du moment que tu t'amuses,
faut vraiment chercher à s'amuser, parce que sinon.
Faut partir là-dessus de toute façon, ouais, avec ce jeu-là. Moi, en fait, je lève les yeux, je vois un Augustus. Là, voilà.
Bah c'est bien ça.
Augustus, bah moi j'ai un gros problème avec ce jeu que
tu t'amuses pas.
Si beaucoup, mais j'ai pas compris que c'était un jeu de chance en fait. Donc du coup je pars à chaque fois dans cette dynamique de trouver la meilleure stratégie pour gagner, voilà, et j'arrive pas à me dire que c'est un jeu de chance, donc il m'arrive des fortes déconvenues. J'adore ce jeu, hein, mais à chaque fois j'arrive à en sortir très frustré, et donc voilà, c'est pareil, Colt Express, faut y jouer vraiment pour y jouer et prendre plaisir à jouer, et pas forcément, il arrive plein de déconvenues et c'est pas grave.
Ouais, c'est une sorte de filaire. Bon, ça dure quand même une grosse demi-heure, mais c'est en attendant après un gros jeu, ça permet de décompresser et puis de se faire des sales coups, et ça dure pas longtemps, et c'est bien. Alors, Philibert dit à partir de 10 ans, 30 minutes à 1 heure, 2 à 6 joueurs. C'est bien parce qu'on peut même jouer vraiment à nombreux. Le train va être de plus en plus grand, donc on va avoir de la place. Et même ça, je pense que ça se joue à beaucoup. Enfin, tu vois, ça se joue facilement à 6 et tout le monde va trouver son compte. Et c'est 25€ pour le, ou peut-être un peu plus, 26,90 pour le jeu de base. 17,90 pour l'extension. Ça paraît cher parce que par rapport à la boîte de base, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir quelque chose à palper, tu sais.
Ouais.
Y a juste la diligence et quelques chevaux, donc tu te dis, ouais, mais quand même, c'est cher par rapport. Mais, voilà, ça développe le jeu, c'est quelque chose en plus et ça vaut vraiment le coup. Et puis après, voilà quoi, c'est, si on aime un jeu, on peut mettre 15€ dedans et nous on se lassera pas d'y rejouer.
Après, s'il y a un élément 3D, je sais pas comment c'est fait,
c'est du carton.
C'est du carton.
Ouais.
Mais quand on voit les prix de base des figurines, quelles que soient les gammes, hein, que ce soit du X-Wing ou du Games Workshop, peu importe, le moindre vaisseau va coûter tout de suite 20€. Ah, donc, oui. C'est pas, je crois pas que ça soit particulièrement cher payé quand on est habitué aux figurines.
Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure ?
Ben, merci à toi de nous avoir accueillis déjà. Quoi.
Ben,
c'est
merci
bien sympa.
C'est-à-dire, sans vous, moi, je ne ferais pas de podcast, donc c'est bien d'être venu.
Voilà.
Merci.
Merci.
Bon, ben, je vais conclure. Alors, vas-y, Didier.
Merci.
Très solennel.
Merci.
Voilà, je vais conclure. Pour moi, c'est le dernier épisode de l'année. C'est le dernier épisode de l'année. C'est pour moi aussi le dernier épisode de Proxy Jeux. Mais vous inquiétez pas, Proxy Jeux continue. Donc, comme Jérémy à son époque, j'arrête le podcast. Faut pas pleurer. Normal. Un grand merci à tous les intervenants qui ont repris le flambeau cette année, tous les gens qui nous ont rejoints au fil des ans et qui ont à cœur de faire poursuivre l'association. Un grand merci, un merci tout particulier à David et à Stéphane, qui sont vraiment deux moteurs de la nouvelle association Proxy Jeux et qui ont continué à la faire vivre. Merci aussi à Jérémy, sans qui rien n'aurait été possible. Un merci à Eve qui m'a soutenu durant les dernières années. Et puis merci à tous ceux qui ont rejoint qui rejoindront pardon l'équipe l'année prochaine. Je sais qu'il y en a et je leur fais un petit clin d'œil virtuel. Et puis surtout merci à vous qui nous avez écoutés pendant toutes ces années, qui nous avez soutenus. Et puis un peu comme tous les intervenants qui sont passés chez nous et avec qui on a bu de la bière. C'est pour nous, mais c'est pour vous aussi qu'on faisait cette émission. Donc merci à vous. Et puis que vous ayez aimé cette émission ou pas, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur podcast.proxyjeux.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. On mettra normalement vous avez déjà écouté une brève sur le printemps du jeu et puis Florent et moi.
Les rencontres ludiques.
Les rencontres ludiques. C'est marqué sur mon conducteur, mais il faut remonter comme ça. Vous avez déjà entendu ça. Normalement, cet épisode sera en ligne à la fin, deuxième quinzaine du mois de juin. Vous pourrez déjà télécharger sur votre tablette. Ça marchera aussi sur les gros téléphones.
Oui.
Le grand Coldron. Rappelle-moi le titre de ton jeu.
Battlefield Gothic.
Battlefield Gothic. On mettra ça. Vous aurez ça aussi sur l'article. Et puis, vous pouvez nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Et puis surtout, notez-nous sur iTunes parce que sinon, il va y avoir un problème avec le chat. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans une chronique ou sur un salon ou en vrai quelque part. Et puis en attendant, jouez bien. Jouez bien. En attendant, jouez bien.
Jouez bien.